Vous écoutez
RMC.
RMC.
Déjà, même s'il y a eu un arrachage de poney, même s'il y a eu des insultes, c'est inadmissible.
Écoutez, Kevin De Bruyne dans zone mix.
Ah ouais, en mode vénère après le match. Après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver.
Non, mais je fais comme toi, tu sais, quand tu commences à attaquer comme ça, t'as fait une fois à Monaco quand il vient en jogging et qu'il sort. C'est normal. C'est normal de faire conférence de presse, c'est normal. Non. Mais pas ton bras, toi, t'as rien, ça, mais toi, t'es un coco. T'es un Netflix, c'est ça l'histoire. On peut pas te parler.
20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes au bon endroit. RMC, le temple du foot à la radio. Le ballon ne s'arrête jamais de rouler. L'after est là tous les soirs de l'année. Avec autour de moi pour vous accompagner durant deux heures, la nouvelle génération. Elle est incarnée ce soir par Jimmy Brown, Kevin Diaz, Elton Mokolo. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
Salut à tous.
Vous êtes en forme?
Salut Simon, salut tout le monde.
J'aime beaucoup ton survêt. Je ne sais pas qui ça représente.
C'est mon
vrai,
c'est mon Kawaii.
C'est ma compagne qui l'a rapporté d'Athènes.
Ah ouais.
Voilà. Il aura pris de Olympiakos, Panathinaikos.
Ah justement, elle m'a demandé quelle couleur je préférais.
Et toi, tu préfères le
celle de l'AEK. Voilà.
Ok, je suis d'accord.
Hommage à Anthony Martial.
Ouais. Ou à Harold Moukoudi.
Luka Jovic, j'ai découvert qu'il jouait là-bas, notre ami, cette année.
Moi, je suis plus Panathinaikos. J'ai été avec RMC Sport dans ce petit stade là, le petit stade en ville.
Ah, vous avez tapé Lens en barrage de conférence.
Non, c'était Lens. Non, c'était Lens ou le Rennes. Moi, c'était un match contre Rennes.
Il y avait joué
un match contre Rennes.
Ouais, je me souviens. Ouais.
C'est même Marseille en Ligue des Champions.
Mais avec une ambiance incroyable.
Mais le stade, il est extraordinaire. C'est un stade vétuste, mais une ambiance exceptionnelle. Et puis ce vert là, un beau vert.
Ah, je suis plus Olympiakos par contre.
Ouais. Ah ouais,
plus
pourquoi dans chaque ville on est plus quelqu'un que l'autre?
Ah non, mais.
Genre Milan, Inter, vous êtes plus qui?
Ah, Milan, on s'en va.
Moi aussi, genre. Milan.
Ah oui.
Ah, mais l'Inter, c'est beau quand même, c'est Ronaldo,
c'est
Milan.
C'est Milan.
Milan.
Après, ça dépend de quelle époque t'as accroché avec le club, etc. Moi, Milan de l'époque, c'est Giorgio Weah.
Roma Lazio, il y a quand même beaucoup, ce sera la Roma.
La Roma,
oui.
Non, mais bon, City United, à un moment c'était United, maintenant il y en a qui doivent être.
Non, ça reste toujours Manchester United.
Il y a les jeunes, ils peuvent être pour City.
À Londres, il y a un petit peu plus de choix. Ça peut
les City.
C'est vrai qu'à Londres, il y a plus de choix.
À Londres, je suis plus Arsenal.
Oui, ben moi, ça a failli être un maillot de Tottenham ce soir. Voilà, ça aurait pu souligner. Voilà.
Moi, je suis plus Arsenal aussi. Mais...
Au programme, messieurs, jusqu'à 22h, J-9 avant la Coupe du Monde. Beaucoup de joueurs sont attendus. De nombreux coachs également. Elton est impatient d'assister à ce mondial des entraîneurs. Maintenant que toutes les listes ont été dévoilées, quelle sélection vous fait le plus peur? Venez changer votre avis au 32-16 avec celui de nos experts. L'actualité du côté de Nice au menu également. À quoi s'attendre après le maintien arraché en Ligue 1? Maxime Tilliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur, viendra nous donner les dernières infos. À 21h, l'avis de Jimmy qui voit le PSG déjà favori à sa propre succession en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors ce PSG double champion d'Europe est-il entré, comme le pense Nasser El Khelaifi, dans le cœur de tous les Français? Venez également nous donner votre avis. En fin d'émission, les dernières infos Mercato. Olivier Giroud qui prolonge à Lille. Konaté qui se dirigerait vers le Real Madrid. Vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà le programme. Jusqu'à 22h, on passera alors la balle à Nicolas Jamin pour l'after jusqu'à minuit. Salut Nico, on parle de quoi?
Salut avec Simon, salut à tous. L'after ce soir, vous le savez, avec Daniel Riolo, Florent Gautreau, Maxime Chanot et deux invités. Le premier est un ami de l'after. Il est passé chez nous avant de grandir sur les bancs de l'AS Monaco. Damien Perrinel sera avec nous. Il a connu quatre coachs à Monaco. Il nous dira quel est le meilleur, quel est le pire. De Nico Kovac à Sébastien Pocognoli. Il nous dira s'il croit toujours en Pogba. Il nous parlera de Golovin, d'Akliouche, son évolution qu'il a vu grandir de l'âge de 19 ans jusqu'à aujourd'hui. Plein de questions à poser à Damien Perrinel, le PSG Ligue des Champions aussi, la double confrontation Monaco qui a fait sortir Paris, le champion d'Europe. Vous vous rappelez Gilles Vessière,
arbitre? Évidemment, bien sûr.
Années 90, début 2000.
Ah oui, on a grandi avec
un des grands sifflets de notre Ligue 1. Gilles Vessière, le Niçois, il sort un bouquin, il sera avec nous là aussi, on a plein de questions à lui poser. Quel a été l'entraîneur le plus relou, le plus insupportable, le joueur le plus élégant sur un terrain?
Il avait arbitré une belle finale de Coupe d'Europe, je crois.
À la Vess, Liverpool.
5-4 Liverpool. Le CSC de Jordi Cruyff.
Il était au sifflet ce soir-là. On va parler de ça, de nouvelles règles également de l'arbitrage pour la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il en pense. Et puis, l'after duel fait hier et va le faire ce soir. Daniel surtout va répondre à Emmanuel Macron, puisque vous savez, le président de la République s'en est pris à Daniel sans le citer lâchement. Sur le scepticisme de Daniel à l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Là, il va en parler, Daniel. Il va répondre au PR, comme on dit dans les milieux autorisés. Et puis, l'OM doit-il vraiment s'inquiéter pour son avenir européen? Vous le savez, potentiellement exclu de Ligue Europa pour ne pas avoir, a priori, respecté un accord passé avec l'UEFA. On parle d'oseille, bien sûr, de finances. Voilà, 22h l'after.
Rendez-vous 22h avec Nicolas Jamin donc pour l'after jusqu'à minuit. On vous attend, nous, nombreux au 32-16 sur le chat de la chaîne YouTube de l'after. Et puis, venez échanger sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Vous le savez, ce lien entre vous et l'antenne, c'est la promesse de RMC. Vous n'hésitez pas à en profiter. Génération After démarre tout de suite. Ah, ça passe vite, hein, les gars. Dans 9 jours maintenant, débutera la 23e Coupe du Monde de football. 11 juin, 19 juillet. Vous n'en manquerez pas une miette, évidemment, sur l'antenne de RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Alors, on attend évidemment des stars sur les pelouses américaines, canadiennes, mexicaines. On aura également du lourd sur les bancs de touche. Rarement, voire jamais dans l'histoire, le mondial n'aura rassemblé autant de grands noms, de fortes personnalités parmi les sélectionneurs. Cette Coupe du Monde est donc aussi celle des entraîneurs. Et ça, ça excite mon ami Elton. Avis tranché.
Il a été élu, alors pas homme du match, hein, le
Super,
most
player.
Voilà, redis-le, comment tu dis
Most player, c'est ça?
J'étais là.
D'ici là, je pense que j'aurais travaillé davantage sur mon anglais et sur cette manière d'être beaucoup plus fluente.
D'ailleurs, mais comment un gars comme toi, classe comme ça, moderne, écoute, tu parles pas anglais?
Écoute, je dirais pas que je parle pas anglais. Je dirais que j'ai des connaissances.
Il sait très bien se faire comprendre en anglais quand il en a besoin.
Exactement. Dans les moments décisifs, voilà. Dans les moments
exact, charnières. Exactement. Let's go then.
Alors avant de te laisser la balle, Elton, je cite quelques noms. Vas-y, évidemment, peux. Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Nagelsmann, Tuchel, Pochettino, Bielsa, Scaloni. Rudy Garcia, Roberto Martinez, et puis côté français, Sabri Lamouchi, Sébastien Migné. Voilà, tu as hâte de voir ces bastons de tableau noir également, cette bataille tactique.
Alors évidemment, on va regarder la Coupe du Monde pour les interprètes, ceux qui vont être sur le terrain, ceux qui seront les plus à même de faire la différence. Et moi, j'ai un attrait tout aussi particulier, notamment pour les entraîneurs. Et moi, j'aime beaucoup le football de sélection, ce qu'il peut apporter. Et pendant très longtemps, dans cette élite du football, moi, j'avais tendance à penser que le football de sélection est un peu un parent pauvre, manière de dire quoi ? Manière de dire que, en fait, ces postes de sélectionneurs étaient surtout pour des coachs qui étaient davantage à la relance. Là, sincèrement, quand tu regardes le casting, avec notamment du Carlo Ancelotti, du Lopetegui du côté du Qatar, du Mauricio Pochettino, et j'en ai oublié un, du Thomas Tuchel, on parle de coachs, de sélectionneurs maintenant, qui ont gagné des Coupes d'Europe, qui ont fait des finales de Coupes d'Europe, et moi, le fait d'avoir justement ce renouvellement des entraîneurs de clubs qui arrivent en football de sélection, pour moi, c'est très bien parce que j'ai tendance à penser que cette Coupe du Monde 2026 doit être un tournant, notamment sur la dimension tactique. J'ai notamment regardé le match États-Unis-Sénégal avec notamment l'équipe de Mauricio Pochettino et des préceptes tactiques qui m'ont intéressé, notamment sur ce pressing haut, ce pressing agressif, cette verticalité pour mettre en avant des joueurs comme Balogun, comme Pepi, comme Joe Reyna notamment. Et moi, je me suis dit que ce passage, notamment 2026 avec ces entraîneurs qui vont arriver, qu'il va y avoir une forme de compétition, tout ça, c'est bien pour faire grandir le football de sélection et que ces entraîneurs qui ont la volonté de s'inscrire dans la durée, pourquoi je te dis s'inscrire dans la durée, Carlo Ancelotti vient de prolonger avec le Brésil, Nagelsmann a prolongé avec l'Allemagne, Thomas Tuchel a prolongé avec l'Angleterre, donc c'est pas des coachs qui sont là juste pour faire un tournoi et puis s'en aller. Bon, même si, attention, ça peut aussi dépendre notamment des éliminations précoces, etc., etc. Mais pour moi, le fait d'avoir des entraîneurs clubs qui ont été dans des gros clubs, je peux également te citer Graham Potter qui était entraîneur de Chelsea. Tout ça, ça m'intéresse parce qu'ils peuvent se fidéliser et ça peut justement faire un appel d'air qui va être très intéressant pour les prochains mois, avec notamment l'arrivée probable d'un certain entraîneur qu'on connaît bien, qui a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Et pourquoi pas aussi, on l'a évoqué la semaine dernière, ou plutôt il y a une dizaine de jours avec Walid, un Pep Guardiola. Raison pour laquelle je dis que cette Coupe du Monde va être très intéressante, notamment sur la dimension tactique, sur la dimension casting, parce qu'on a besoin justement d'avoir des entraîneurs phares, justement pour avoir le meilleur produit possible et avoir une Coupe du Monde qui sera pour moi de grande qualité.
Ce Mondial 2026 sera également la Coupe du Monde des entraîneurs. On en parle dans Génération After avec Elton Mokolo, Jimmy Brand, Kevin Diaz. Messieurs, en attendant nos auditrices et nos auditeurs au 32-16, votre réaction, est-ce que vous aussi, juste sur le plan factuel, le constat, Vous trouvez qu'il y a un panel de sélectionneurs jamais vu jusqu'ici ?
Sur le constat, c'est difficile de donner tort à Elton. Moi, j'ai pas souvenir d'une Coupe du Monde où il y avait autant d'entraîneurs avec des palmarès si importants, avec aussi, Elton a beaucoup parlé de tactique, mais aussi des personnalités fortes. On sait que les Coupes du Monde, c'est aussi les conférences de presse, avant, après des matchs. Moi, je suis pressé d'entendre de Tuchel, d'entendre Bielsa, évidemment, pour ne citer que. Enfin, oui, c'est vrai que sur les bancs, t'as un casting 5 étoiles, ça donne envie. Ça donne envie de voir les confrontations directes entre les uns et les autres. Est-ce que ça garantit, ça présage d'une Coupe du Monde spectaculaire? Ça, je pourrais pas te le dire. Moi, je reste encore très dubitatif sur la formule à 48 équipes avec 104 matchs. C'est-à-dire que pour avoir ces confrontations directes, il va falloir attendre un peu de temps et crémer un petit peu en début de compète. Mais ça peut annoncer des duels très excitants, oui, c'est clair.
Kevin, tout Ancelotti ou Nagelsmann qui soit, ils ont la possibilité en football de sélection d'imprimer la patte qu'on leur a connue en club. Tu crois ça ?
Bah, c'est un peu plus dur forcément dans le football de sélection parce qu'il y a moins de temps pour travailler. Maintenant, ça reste quand même, comme l'a dit Elton, hein. Pour le coup, c'est pas un avis tranché là. C'est un avis où on sera tous d'accord dans le sens où c'est pas clivant.
Donc t'es d'accord avec moi ?
Oui, c'est rare.
Mais s'il va te dire, ils sont flingués les coachs.
Les coachs, ils sont extraordinaires. C'est extraordinaire. Avant, tu sais, les sélectionneurs, c'était sans lui manquer de respect, mais c'était des Del Bosque, des joueurs comme Aimé Jacquet ou Roger Lemaire qui n'avaient pas fait des grands clubs européens. Mais aujourd'hui, en fait, les mecs, ils gagnent
tellement. Del Bosque, c'est pas le meilleur exemple. Ils gagnent une Ligue des Champions.
Non, mais bien sûr.
Mais c'est vrai que Jacquet et Lemaire, c'est pas Ancelotti et Nagelsmann.
Del Bosque, c'est aussi dans ce qu'il dégage. Tu vois, c'est pas des grandes personnalités du football.
C'est pas charismatique.
C'est pas les. Je parlais en effet de charisme, de prestance, etc. Après, c'est des grands entraîneurs quand même. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, le métier de sélectionneur et le métier d'entraîneur, on disait qu'il était très différent. Mais aujourd'hui, il y a tellement de joueurs. Ce qui est intéressant, je pense, c'est le parallèle avec le football de club. Aujourd'hui, les entraîneurs ont tellement d'oseille dans ces genres de clubs qu'en fait, c'est des sélectionneurs. Ils peuvent dire, lui, il me le faut. Ah, c'est 150. Allez, 145, mais on va le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, aujourd'hui, quand t'es à Chelsea, au Bayern, t'as un peu qui tu veux. Alors oui, il y a la concurrence, en sélection, il y a la concurrence.
Oui, mais t'as pas qui tu veux en sélection, parce que pour le coup, tu peux pas aller acheter un mec si t'as un déficit à un poste, tu vas pas pouvoir le régler avec de l'argent. Ça, c'est la différence.
Mais par exemple, aujourd'hui, il y a de la concurrence aussi pour les sélections. C'est-à-dire que t'as un Olise qui pouvait choisir entre trois sélections. Joueurs qui choisissent entre la sélection d'origine de leurs parents ou la sélection du pays là où ils ont grandi. Donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de concurrence, mais tout ça pour dire que les sélections aujourd'hui, ce sont tous des grands clubs, dans le sens où il y a énormément de grandes stars, il y a quand même des moyens pour travailler dans toutes les sélections avec des complexes d'entraînement qui sont monstrueux, avec des technologies qui sont très importantes, et donc ils ont quand même le temps d'optimiser un petit peu. Alors bien sûr, t'auras pas le projet de jeu d'un mec qui est là pendant 9 mois à peaufiner son équipe, mais tu sais que quand t'es sélectionneur de l'Allemagne, tu vas t'appuyer sur le Bayern notamment. Quand t'es sélectionneur de l'Espagne, tu vas t'appuyer sur le Barça notamment. En France aujourd'hui, tu peux t'appuyer un petit peu sur le PSG, même si on a un logiciel qui est très différent pour notre sélectionneur par rapport à celui de l'entraîneur du PSG. Et en Angleterre, t'as toujours les plus grands clubs qui fournissent les meilleurs joueurs.
Justement, Elton, tu le sous-entendais un petit peu dans ton avis. Il y a le jeu, il y a le foot, et il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et ces entraîneurs-là qui sont passés par la routine du club, tout ça, ils vont attirer également quand même l'attention. On a envie de les entendre. Je prends pour exemple le moment où on a entendu Carlo Ancelotti prononcer le mot de Neymar Junior, cette fameuse conférence de presse de l'annonce de la liste. Je veux dire, ce sont des gens qui créent également l'événement par leur vécu, par leur personnalité.
Mais j'ai presque envie de te dire que là, c'est le contre-exemple, puisqu'en fait, ça te prouve qu'au final, tu montes, tu descends, c'est les joueurs qui sont le plus attendus. C'est pas parce que c'est Ancelotti qui l'a dit, c'est parce que c'est le nom de Neymar qui
a donné une dimension quand même avec sa voix.
C'est parce que c'est Neymar que ça a fait cette folie-là, tu vois. Quand il t'a donné le nom de Ryan, tu t'es pas emballé devant
Non, j'aime beaucoup le
problème. Neymar, c'est le contre-exemple.
Ça va créer l'événement.
Il a raison, Simon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un manga. On est dans un manga où tous les meilleurs joueurs sont à la Coupe du Monde, où tous les meilleurs sélectionneurs.
Attention, il n'y a pas que 20.
Tous les meilleurs. T'as compris. Tous les meilleurs. Malheureusement, c'est vraiment un petit pays là, mais il aurait presque pu y être. Mais où tous les peut-être pas tous les meilleurs entraîneurs, mais en tout cas certains très grands entraîneurs des 20 dernières années y sont avec d'énormes sélections. Et donc en fait voilà, t'as tous les super guerriers, t'as tous les capitaines de la Flynet, de la Tau et de la Newpie qui sont là. Et aujourd'hui bah ça va être la grande explication, avec en plus les trois légendes qui sont encore là, donc Messi, Ronaldo et Neymar, qui font leur retour. Même Manuel Neuer, tu vois, c'est un peu le gardien allemand, tu vois, dans Captain Tsubasa, qui revient là de sa retraite, Thomas Price qui revient
Thomas
de sa retraite
Price,
et qui va dire voilà, je vais faire la dernière Coupe du Monde avec le Japon, quoi.
T'as Harry Kane qui va enfin aller la chercher avec l'Angleterre aussi. Non mais t'as d'énormes, enfin c'est, oui, il y a des,
y a des histoires extraordinaires.
Mais juste pour rebondir sur ce que disait Kevin tout à l'heure, je pense que moi j'ai parlé du côté face en disant oui, il y a 48 équipes, il y a 104 matchs, ça va être long, etc. Le côté pile, c'est ce qu'il évoquait, c'est la professionnalisation. Ce format de compétition permet de générer plus de revenus, on le sait, de mieux redistribuer à des fédérations. Et là où je rejoins Kevin, c'est qu'il y a une vraie professionnalisation du foot de sélection. Parce que tu sens une vraie progression.
Exactement.
Avec des staffs complets. Et si ces entraîneurs-là, pour faire le point avec ce que disait Elton au départ, sont dans ces sélections aujourd'hui, c'est bien que, voilà, il y a des moyens différents aujourd'hui et on peut mettre en place des choses et on peut espérer que ça continue dans ce
sens-là. Il y a des moyens pour les payer aussi, les
entraîneurs. Voilà. Et pour moi, c'est le point qui est le plus essentiel, parce que moi, j'ai lu il y a quelques années un José Mourinho qui disait, le jour où j'irai en sélection portugaise, c'est quand je serai vieux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un repoussoir. Pourquoi je te dis ça? Parce que on a de plus en plus de jeunesse. Un Nagelsmann, il a quand même refusé le Bayern pour prolonger avec la Nationalmannschaft au sortir de l'Euro 2024. Parce que aujourd'hui, t'as vraiment dans l'idée qu'on peut, on peut s'épanouir dans le football de sélection et on peut travailler.
Et puis, il y a quand même autre chose pour finir. C'est la qualité de vie d'un sélectionneur. C'est-à-dire que t'as pas la pression au quotidien pour ces mecs qui ont connu.
Carlo, il a changé de vie. Au Brésil,
même Nagelsmann, même Thomas Tuchel, ils ont une pression monstre au quotidien dans un club. Hein, le fameux documentaire et le fameux titre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand t'es en sélection, bon, Luis Enrique avait beaucoup de pression en sélection aussi, mais c'est lui qui allait un peu se la chercher. Mais c'est quand même, voilà, c'est une fois tous les mois, c'est 3-4 fois par an. Et après, voilà, t'as la grosse compétition où là, tu sais que t'es en vase clos pendant un mois et demi, et là, tu vas. Mais eux, quand ils sont entraîneurs d'un grand club, la Coupe du Monde, c'est
pas un attention, pour moi, il y a quelque chose qui a aidé et tout dans cette adrénaline de la compétition. Moi, au départ, je la regardais avec beaucoup de méfiance. C'est la Ligue des Nations. La Ligue des Nations qui t'évite d'avoir des matchs amicaux à rallonge qui ne servent à rien. T'as un aspect compétitif qui permet notamment.
La Ligue des Nations, il y a Daniel Riolo qui la comprend pas.
Oui, mais enfin, je vais pas aller dans le sens de Daniel, mais pour, on est quand même à milieu entre un Euro, une Coupe du Monde et une Ligue des Nations.
Non, mais ça, non,
mais c'est mieux que les amicaux secs, on sera tous d'accord là-dessus, oui.
Je suis d'accord, mais notamment pour ces sélectionneurs, ça te permet justement d'avoir notamment cette compétition. Pour moi, c'est l'équivalent d'un Masters 1000. T'as le Masters 1000 qui est la Ligue des Nations, le Grand Chelem, ou plutôt le Grand Chelem absolu, c'est la Coupe du Monde. Mais ça te permet aussi de travailler et de rester dans une forme de compétition plutôt que d'avoir des éliminatoires face à des équipes. Bon, même s'il faut faire des éliminatoires, qui te permettent justement d'avoir ce caractère compétitif.
Et puis, il y a un casting qui prouve, vous l'avez souligné, messieurs, que... le football de sélection n'est plus une voie de garage pour contrairement à ce que pensait José Mourinho il y a quelques instants.
Et puis, juste avant de te laisser finir, il y a quand même un truc, c'est qu'aujourd'hui, même si, on voit beaucoup de matchs, etc. Mais si tu demandes à tous les footballeurs du monde quelle est la compétition qu'ils veulent gagner.
Ah oui, c'est la Coupe du Monde.
Bah, je pense que pour 95%, si ce n'est plus, c'est la Coupe du Monde. Il n'y a pas mieux que la Coupe du Monde. Je veux dire.
Oui, c'est sûr.
Donc, ça reste quand même la compétition du football, quoi.
On va ouvrir notre débat avec Lai, qui a fait le 32-16, qu'on est ravis d'accueillir dans Génération After. Salut Lai.
Salut l'After.
Salut Lai.
Alors ta position sur cette discussion, c'est vrai que Kevin et Jimmy ont souligné que c'est pas vraiment un avis tranché, difficile d'aller contre le constat que fait Elton. Est-ce que toi aussi t'es excité par ce casting de sélectionneur au Mondial 2026?
Moi je trouve vraiment, c'est dommage, hein. Elton, je t'aime beaucoup de base, mais problème c'est que vous avez parlé beaucoup de jeux, oui c'est bien hein, le jeu, la gagne, c'est très bien, mais j'ai pas entendu une fois où parler d'identification, de patriotisme, parce que moi, voir un Italien être sélectionneur de du Brésil, je comprends pas. J'entends des débats, est-ce que Deschamps peut aller en Italie? Pour moi, si ça arrive, c'est une catastrophe. Voir des coachs comme Rudy Garcia avec Belgique, c'est pareil, hein. Moi, je trouve pas ça. Moi, je trouve que pour moi, c'est pas une bonne chose pour.
C'est un débat qui revient souvent.
C'est un débat parallèle un petit peu. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis là. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là. C'est un vrai sujet.
C'est très intéressant ce qu'il dit dans la mesure où en fait l'élitisme, notamment accru du côté du football de sélection, t'amène ça, à savoir que à partir du moment où les sélections veulent progresser, elles vont pas s'embarrasser par rapport à cette notion de patriotisme. Et c'est vrai que voilà, le fait de voir Carlo Ancelotti au Brésil.
Ouais, ouais, mais l'exemple d'Ancelotti est bon là. T'as vu la galère que c'était pour trouver des sélectionneurs fiables au Brésil. C'est à un moment donné, Ancelotti, il arrive après une succession d'échecs de sélectionneurs locaux. En Angleterre, c'est pareil. Tuchel arrive après une succession d'échecs aussi.
Tu dois aller chercher un Italien pour venir sélectionner ton pays. Moi, je trouve que non.
Ouais, mais après, attention, si tu fais face à un plafond de verre et tout, que t'as pas des résultats avec entre guillemets un entraîneur local, qu'est-ce que tu fais pour développer ta sélection?
Bah tu dois avoir un projet.
Pour le coup le Brésil, c'était l'émission de Ruquier, on a tout essayé avec les entraîneurs locaux, ça n'a pas marché et t'as même été à un moment donné t'as terminé 5e de la phase éliminatoire absolue.
J'entends ton argument mais moi tu m'excuseras mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Aujourd'hui les Brésiliens, les meilleurs entraîneurs au Brésil, c'était les Portugais pendant un moment. Là ils ont choisi un Italien, pourquoi pas? Écoute, il faut pas,
tu préfères la gagner avec Ancelotti que sortir au premier tour avec un Brésilien,
bien sûr. Aujourd'hui, les Brésiliens, il y a Scolari a entraîné le Portugal. Il y a plein de pays. Les pays africains.
Il t'a posé une question. Tu trouves ça normal?
Moi, je trouve ça. En tout cas, ça ne me dérange pas du tout. En tout cas,
c'est vrai qu'on a Ancelotti italien au Brésil. Tourelle, s'il la gagne pour l'Angleterre, personne viendra lui reprocher sa nationalité.
Regarde, lui, c'est un Allemand. Il va coacher quand même l'Angleterre.
Il y a eu ces débats-là en Angleterre, mais ils sont vite éteints parce que. Au regard des débuts assez pro de Tourelle qui a réussi à faire des choix importants.
Le problème, c'est quoi? C'est parce que ça rompt avec une identité de jeu. Tu te places sur le sportif.
Regarde, même nous, par exemple, moi je suis sénégalais. Avant, on allait chercher des Français ou d'autres. Mais depuis qu'on a arrêté d'aller chercher d'autres nationalités, notre sélection, elle se porte beaucoup mieux.
C'est ce que j'allais t'objecter, c'est qu'il y a beaucoup de sélections africaines qui font appel à des sélectionneurs locaux. Durant des décennies, on allait chercher à des mecs qui n'avaient pas forcément de succès en Europe.
Et là, à raison de souligner, ça marche bien, pour le coup.
Le Cameroun, pendant des années, a gagné des compétitions et a eu des sélectionneurs étrangers sur son banc.
Oui, il n'y a pas de règle absolue.
Bien sûr que dans l'absolu, c'est mieux d'avoir un gars qui connaît le pays, etc. Mais bon, quand tu arrives sur une génération où les entraîneurs sont moins compétents, écoute.
Il y en a beaucoup, regarde, Kevin. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est comme si c'était logique, quoi. C'est devenu logique pour moi, mais pour moi, c'est pas logique.
Après, attention, là où il y a un effet pervers, notamment, je vais te donner trois exemples. Je vais te donner l'exemple du Brésil, je vais te donner l'exemple de l'Italie et de l'Angleterre. Ouais. Il y a tellement d'attentes autour de ces sélections qui n'ont plus rien gagné depuis longtemps, encore plus l'Italie qui n'arrive même pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est qu'il y a une pression qui est tellement importante sur les locaux que même des entraîneurs locaux qui pourraient arriver en sélection, ils ne veulent plus y aller. Je vais te dire, l'Italie, à un moment donné, on n'a pas envie de se griller par rapport à sa carrière. Parce que il y a aussi la dimension patriotique, mais aussi le CV. Je veux dire par là, l'échec avec ta sélection nationale, impacte fortement ta carrière.
Après, contre-exemple, c'est Gattuso, il peut se planter partout, il retourne Gattuso, il a pu planter l'Italie, il retourne à la Joe derrière. Alors qu'il a pris l'Italie après avoir planté.
Mais tu vois, par exemple, imagine-toi un Southgate qui a fait objectivement un passage en Angleterre qui a été réussi. Mais qu'est-ce qu'il a pas pris comme critique? Au point même qu'à la fin, il s'est dit, je préfère démissionner. J'ai fait finale, alors que parce que tu vois, il y a cette notion de clubisme qui arrive. Ouais, c'est un entraîneur anglais, pourquoi il prend pas celui de Manchester?
Ça fait pas débat en Angleterre. Le fait que ce soit.
Il te l'a dit, Jimmy.
Oui, et puis même au moment de cette liste qui a été tellement.
C'est toujours pareil, là, ça fait débat avant. Au final, si Tuchel, il t'amène la deuxième étoile pour l'Angleterre, tout le monde applaudira et il n'y aura plus de nationalité.
Malheureusement, la gagne, ça gagne toujours.
Oui.
Là, et ton pronostic, qui va remporter cette Coupe du Monde?
Le Sénégal.
Un petit peu de
méthode couée. Merci beaucoup là d'être venu au 32-16 partager ton avis et bon mondial évidemment à l'écoute de RMC. Jimmy Brown, Elton Mokolo, Kevin Diaz vous accompagnent durant 2 heures jusqu'à 22 heures. Génération After, on continue de se projeter sur cette édition 2026 de la Coupe du Monde. maintenant qu'on connaît toutes les sélections, toutes les listes de toutes les sélections, qui faut-il le plus craindre? Venez nous donner votre avis. On est de retour dans quelques instants.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Simon Dutin.
Accompagné ce soir de Kevin Diaz, Jimmy Brown, Elton Mokolo, Génération After en direct jusqu'à 22h avant de passer la main à Nicolas Jamin pour l'After jusqu'à minuit avec Gilles Bessières notamment, invité, l'ancien arbitre international qui sort un livre et qui a beaucoup de choses à raconter à Daniel, à Flo Gautreau et Nicolas Jamin. Nous d'ici là on se projette toujours sur la prochaine Coupe du Monde, J-9, hein, vous n'en manquerez rien évidemment sur
c'est
RMC.
C'est fou.
C'est fou, c'est déjà la Coupe du Monde.
Je suis
monde,
encore sur ma finale de Ligue des Champions, dans 9 jours, c'est la Coupe du Monde.
T'as bien raison, toi.
En même temps, quelle vie, quelle vie lorsqu'on est supporter du PSG et supporter de l'équipe de France.
Il est encore sur le pénal de Gabriel. Hein.
J'ai un avis tranché que j'avais pas dit à la prod.
Ça arrive trop vite.
Mais non. Vu que maintenant j'ai entendu l'avis tranché d'Elton, je voudrais faire un avis tranché sur le fait que il y a quand même des gros joueurs à cette Coupe du Monde.
Alors, écoute, le pro,
c'est quand même un grand pays de sport.
Je vais m'enfermer dans une pièce et je vais réfléchir juste à la réponse que je vais t'opposer.
On va aller dans des
pauses. Juste ça.
J'ai un avis tranché.
On va aller quand même. Dixit, le mec, il dit, vous aimez le travail de Pierre Sage. C'était ça.
Kevin Diaz, j'attends avec impatience.
Moi, je pense qu'on va aller dans des beaux stades de...
J'attends avec impatience la programmation de Génération After Food et je serai là.
Allez, ça tacle un petit peu dans le studio de Génération After. Alors que nous, Français, on s'avance quand même, vous en conviendrez, parmi les favoris de cette compétition. On va se demander de qui on doit se méfier le plus. Alors avant de se projeter sur les favoris donc, ou épouvantails, hein, comme vous voulez, de ce tournoi 2026, petit quiz pour vous les amis autour de la table. Est-ce que vous pouvez me citer les 8 quarts de finalistes de la dernière édition du Mondial 2022 au Qatar?
Il y a du France-Angleterre.
France-Angleterre, c'est bon. 2-1 pour la France.
Argentine-Pays-Bas.
Argentine-Pays-Bas, le score
2-2 sans essai au but.
Maroc-Portugal.
Oui, le score
Maroc-Portugal, ouais.
Maroc-Portugal 1-0.
Exactement.
Et Brésil-Croatie. Et Brésil-Croatie, les Croates au tir au but.
Voilà, un partout.
Avec le but de Neymar en prolongue.
Vous êtes solide comme ça, sans avoir fait.
Sur les scores.
J'essayais de vous prendre un petit peu de par surprise.
Blague à part, ce qu'il fait Walid, c'est complètement incroyable.
Mais il est en intox à chaque fois. Il dit jamais. Il a ChatGPT en fait.
Non, c'est vraiment vrai. C'est extraordinaire.
C'est problématique, limite.
Voilà, Walid qui a un. Je sais pas comment on appelle ça, mais.
Mais dès qu'il s'agit du foot, parce que le reste,
il est bugué l'ordi. Il est HBF,
Voilà, il retient tous les scores de tous les matchs. Alors, toutes ces équipes citées, elles sont qualifiées pour l'édition 2026. Est-ce que vous les voyez à nouveau en quart et qui voyez-vous s'inviter dans la course pour les empêcher de se qualifier? On rappelle que il n'y avait pas d'Espagne du coup dans cette liste, éliminée en 8e par le Maroc. L'Allemagne avait été éliminée en poule. C'est le Japon et l'Espagne qui s'étaient qualifiés. L'Allemagne s'était faite éliminer
au
en compagnie
d'un
du
scénario dingue sur la dernière journée.
Du Costa Rica, exactement, avec des buts de la Corée du Sud, je crois. Dans un qui voyez-vous se mêler à cette lutte? Qui peut être la surprise 2026, l'équivalent du Maroc 2022?
Eh ben le Maroc.
Le Maroc.
Le back to back. Ouais, je vois les Marocains très solides. Je pense que le Japon aussi peut être. Je vais m'engager un petit peu sur le Japon qui peut être une belle surprise. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe, qui arrivent à maturité. Ils ont une belle sélection. Les Japonais, ils n'arrêtent pas de progresser de Coupe du Monde en Coupe du Monde. Donc à un moment donné, ça m'étonnerait pas qu'ils finissent par claquer un quart. Après, pour répondre à ta question initiale, est-ce qu'on retrouvera ces 8 là? Moi, j'ai du mal à imaginer la Croatie. Surprise dans l'autre sens, je vois pas l'Argentine aller loin. Ça, c'est mon petit take.
Tu vois pas l'Argentine aller loin?
Je vois l'Argentine flopper.
La Croatie. La Croatie qui vient de s'incliner en amical 2-0 face à la Belgique.
Et si on cite le Maroc, on est obligé aussi de autre nation africaine qui a impressionné, c'est le Sénégal, bien sûr. Le Sénégal sera une équipe très costaud aussi. Ils sont dans le groupe de l'équipe de France.
Après, juste toutes les sélections africaines, je ne les ai pas toutes, il m'en manque une.
T'as la RDC qui est là, t'as le
Sénégal. Ah, t'as la RDC
J'ai pris Delta de la Tunisie avec Sabri Lamouchi.
Ouais, ça oui.
Qui a joué hier en amical?
L'Algérie. Non, l'Algérie n'y est pas. La RDC s'est occupée du Nigeria.
C'est ça.
Et pas qu'un peu.
Ouais. T'as le Ghana qui est là. Ghana, ça me paraît plus compliqué. T'as l'Afrique du Sud qui va rejouer le match d'ouverture en Mexique.
Le Ghana et le Nigeria et le Cameroun, quoi.
Ouais, c'est des qualifs. Voilà, des qualifs, hein. Mais oui, ils sont passés. Égypte aussi en nation africaine, absolument. Et il y a le Cap-Vert aussi.
Ah voilà, c'est le Cap-Vert que j'avais.
Ouais. Équipe surprise, il y avait le Cap-Vert. Ouais.
Alors, les favoris, les surprises.
Moi, j'ai une surprise. Je les ai vus jouer hier. La proposition foot m'a bien intéressé. Les États-Unis.
Les États-Unis,
parce que tu as une génération qui m'a l'air très intéressante. Emmenée notamment par un Balogun qui est pas mal, qui est dans une forme en ce moment avec Monaco et les États-Unis qui est très intéressante.
T'as cité ces deux copains de devant, Reina et Pépi, qu'on va peut-être découvrir.
Pépi que j'ai beaucoup aimé contre le Sénégal. Reina, Serginho Dest qui a marqué, et globalement une équipe qui déjà avait été intéressante en 2022, et avec un sélectionneur, qui va dans le sens de l'avis tranché, que Kevin Diaz a dit que c'était pas un avis tranché,
Mauricio
Pochettino, qui doit apporter sa plus-value tactique, notamment pour ce pays-là.
Qui a laissé Tesman à la maison, j'ai vu passer.
On va s'en remettre.
On va dire le scandale du siècle.
Ah, écoutez, je connais pas, bien sûr, mais
je glisse
ma petite info, là.
Moi, je connais pas tous les 26 joueurs américains, mais je pensais quand même que Tesman y serait, par contre. Il était au JO, c'est un joueur qui a fait une belle saison à Lyon. Moi, je pensais qu'il y serait, mais bon.
Par contre, j'ai un élément d'inquiétude pour les États-Unis, c'est que la charnière centrale, c'est deux réverbères qui ont du mal à se retourner rapidement. Et ça, sur une Coupe du Monde.
T'as celui de Toulouse, non? T'as McKenzie qui est.
Ouais, c'est ça, ouais. Et sur une Coupe du Monde, tu peux être en difficulté. Ça leur avait déjà posé problème en 2022.
Après, pour aller dans le sens de ton avis tranché, ils vont quand même avoir l'avantage de jouer à domicile, quoi.
États-Unis à domicile, il peut y avoir un avantage.
Voilà. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'ils vont compter vraiment sur un engouement
si on peut compter sur le patriotisme, c'est les Américains quand même.
Ça marche aussi dans un stade de foot. On a tous connu Elton, peut-être 94, États-Unis 94, t'as des souvenirs un petit peu quand même. Alexis Lalas, ouais, non.
Mais oui, Alexis Lalas, bien sûr, ce maillot extraordinaire.
Ah là là, ils l'ont ressorti d'ailleurs, ils ont fait une réédition. Kobe Jones et Ernie Stewart et tous les.
On parlait tout à l'heure du rouge de Leonardo sur les États-Unis.
Bien sûr, le coup de coude.
Le 8e de
finale. On va accueillir Okan qui a fait le 32-16. Salut Okan.
Salut.
Excuse-moi, mais le prénom
j'ai
la Turquie en équipe surprise. Avant Okan, c'est le prénom qui m'a réveillé. Comme ça, évidemment, j'ai la Turquie dans mes petits pronos. J'ai la Turquie qui va loin.
Et ben voilà.
Je viens d'entendre les États-Unis surprise, mais malheureusement pour Elton, j'ai une théorie.
C'est quoi ta théorie?
Ma théorie, c'est la Turquie arrive premier de son groupe, et donc on affrontera un troisième. Et j'ai toujours cette théorie que le pays organisateur, quand il arrive premier, il a un chemin plus ou moins abordable. Mmh. Un peu comme Arsenal en Ligue des Champions a eu son chemin tout tracé. D'ailleurs, je pense que Paris aura la troisième parce qu'elle arrivera premier en poule, mais ça, c'est autre chose. Mais je pense vraiment que la Turquie, on se rappelle, la dernière fois que la Turquie était en Coupe du Monde, c'était en 2002. Elle n'a pas été qualifiée depuis. Elle a fait beaucoup d'euros, ça s'est mal passé.
Vous n'y allez pas pour rien en Coupe du Monde.
Déjà, avec là aussi un sélectionneur étranger, on en parlait, Vincenzo
Montella, qui fait un bon boulot.
Là-bas, on parle de pression en plus.
Je pense que ce sont les joueurs qui vont faire la différence cette année, parce que à chaque ligne, peut-être le gardien, et encore, je trouve qu'il est bon. À chaque ligne, on a un top player.
C'est qui le goal? C'est pas Bayindir? Shakir qui est titulaire.
Ouais, c'est soit Shakir ou soit Bayindir, et après je me rappelle plus s'il a pris Destan Oğlu, mais je me souviens plus. Mais on a Kadıoğlu qui est pour moi un top latéral.
Ouais, j'aime bien
très bon. Non, mais c'est surtout t'as deux joueurs énormes, t'as Yıldız et Arda Güler dans la même équipe. Rien que pour eux, t'as mis ta télé de regarder la Turquie en fait.
Le grand
et Çalhanoğlu, le Modric turc quoi, qui est le maître à jouer. Kenan Yıldız, pour moi top player, même si je sais pas trop quelle position il doit jouer, peut-être à gauche. Arda Güler qui est notre nouveau Özil, si je peux me permettre. Et en tout cas, on y croit vraiment. La Grinta, c'est sûr qu'elle sera là à 100%. Et je pense vraiment qu'on ira au moins en quart.
Elle est comment la communauté turque? Elle est présente aux États-Unis?
La communauté turque est présente partout dans le monde, mais elle est présente aux États-Unis.
Okay.
Non, mais vraiment.
Non, mais parce qu'on sait que normalement, il y a souvent un gros groupe de supporters.
Mais elle existe, hein. Elle existe en Turquie, bien sûr.
Okay.
Non, mais j'ai beaucoup analysé ton équipe. Non, pas du tout. Non, mais plus sérieusement.
Elle a joué hier 4-0 contre la Macédoine. Bon, c'était
juste. Ouais, mais pour moi, s'il y a une limite, c'est ton numéro 9. Parce que c'était déjà ce qui t'avait coûté la qualification en demi-finale contre les Pays-Bas.
C'est vrai.
Bon, tu tombes sur un Verbruggen qui avait été extraordinaire sur ce match-là. Et tu vois, t'as les joueurs de côté, les Baris que t'as oublié d'évoquer, qui est un très bon joueur. Et par contre, il va falloir impacter avec ton avant-centre.
Moi, je vois Kenan Yildiz, Ouzoun qui a marqué hier. Je vois que Kenan Yildiz qui peut porter ce numéro, même si je pense qu'il mettra Barré Chilmaz. Depuis Akanchukur, je pourrais même pas citer un grand attaquant turc, hein, un numéro
9. De Porto là qui joue, c'est ça, c'est Denis Gül qui démarre hier, qui a mis des buts avec Porto, mais c'est un peu léger encore, peut-être pour le premier.
La Turquie donc, dans le groupe D.
Ma surprise. On a eu le Maroc en demi-finale à la dernière Coupe du Monde, personne misait dessus. Hein.
États-Unis, Australie, Paraguay, Turquie, ça peut passer pour la Turquie quand même.
Ça va passer,
en effet, surtout avec trois qualifiés. Kevin, on t'a pas entendu toi sur tes favoris et outsiders pour un favori, une surprise.
Moi, je pense que la surprise. Alors pour certains, c'est un favori, mais moi, je pense que la surprise, ça peut être le Brésil en fait.
Je m'y attendais à cette comédie de vous deux, bien sûr, mais je suis très sérieux.
J'ai une question. Le Brésil champion du monde, c'est pas une surprise.
Bah si, c'est.
Si, donc tu vois champion du monde.
Moi, je suis d'accord avec
toi.
Je te dis que ça peut être une très belle surprise.
Non, mais dans l'absolu, t'as 48 nations qui peuvent être.
Non. Le Brésil, c'est pas n'importe qui. Le Brésil, c'est. Moi, je te dis que aujourd'hui, pour la planète football, si le Brésil est champion du monde, c'est une surprise.
Donc là, aujourd'hui.
Bah, ce serait ma surprise, si tu veux que je te dise.
Donc là, aujourd'hui, tu mets ton portable sur le Brésil champion du monde.
Moi, de toute façon, moi, je parie pas sur le football déjà. Mais je te le dis, j'ai ni mon portable, ni 5 euros. 5 euros à la rigueur pour le fun, mais je te dis que pour moi c'est une surprise s'ils gagnent la Coupe du Monde ou même s'ils vont en finale. Pour moi c'est une surprise.
Je pense que ça peut être une surprise.
Une équipe qui est 5 fois championne du monde, qui a Carlo Ancelotti sur son banc, qui a Vinicius,
vous voyez très bien où je veux en venir.
Oui.
Et par contre les inquiétudes. C'est pour le Portugal. Moi, je trouve qu'on les voit trop beaux. Parce que pour moi, je l'espère, hein, bien sûr, du fond du cœur, qu'ils arriveront à la porter à Cristiano Ronaldo. Mais objectivement, j'espère me tromper, mais je n'y crois pas.
Même avec l'apport des Parisiens qui sont sur l'ordinateur.
Il y a l'entraîneur qui m'a pas l'air très très courageux. Et t'as Cristiano Ronaldo qui a 41 piges.
Ouais, mais au Portugal, ça joue avec un vrai numéro 9.
Sincèrement, tu regardes la ligne d'attaque, c'est une ligne d'attaque Instagram, c'est qu'il y a de beaux noms, mais factuellement, en termes de performance, ça ne marche pas.
Souviens-toi du soir où on a découvert Gonzalo Ramos remplaçant Cristiano Ronaldo.
Je pense pas qu'il va démarrer neuf à la Coupe du Monde comme a dit Kevin. Ronaldo est là, Ronaldo il va jouer.
Bah oui.
Et Ronaldo, s'il joue, c'est en neuf.
C'est pas que ça, mais c'est pas le fait d'être neuf. C'est le fait de tirer tous les coups francs, c'est le fait de tirer tout ce qui a attiré. Non, moi, ça m'insupporte trop.
Après, réservoir exceptionnel au milieu, mais même, je regardais la liste en défense centrale, c'est moins costaud qu'il y a.
Journaliste portugais, je demande, est-ce que vous allez tirer les coups francs? En fait, parce que sinon, il y a Joao Neves qui est juste meilleur. T'as Bruno Fernandes, t'as Nuno Mendes qui sont juste meilleurs.
C'est pas Roberto Martinez qu'il faut poser la question, puisqu'il a dit qu'il voyait bien Ronaldo disputer celle de 2030 également.
Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais,
donc, il est un petit peu. Je suis d'accord avec Kevin sur Portugal, ça, c'est pas sur le Brésil, ça peut pas être une surprise qui gagne la Coupe du Monde. D'aller contre Cristiano Ronaldo. La réponse dans 9 jours, ça approche cette Coupe du Monde. 2026, dont vous ne manquerez rien évidemment sur RMC. Petit détour par Roland Garros, je crois que Eric Salio s'ennuie un petit peu. Alors on va aller le distraire. Salut Eric.
Salut à tous.
Alors
salut,
qu'est-ce qu'on a au menu de cette night session?
On joue à Roland ou Fonseca. Qui est un peu le chouchou de Roland Garros.
Et de Jimmy Brown.
Bien sûr.
Oui, il a dû lui faire gagner beaucoup d'argent.
Qu'est-ce que tu veux dire ça?
Là, pour le coup, un Brésilien qui arrive en finale, ça, c'est une surprise.
Voilà.
Alors, c'est la sensation quand même de ce Roland Garros, même si on le voit arriver sur le circuit depuis quelques mois.
Bah, il a tout simplement confirmé son exploit contre Djokovic en battant Casper Ruud il y a deux jours. Mmh. Et là, c'est Jakub Mencik qui se présente devant lui, le grand Tchèque, très puissant. Je pense qu'il est favori si physiquement il est encore bien. Maintenant, il a beaucoup de temps de jeu, c'est ça qui est inquiétant. Mais pour l'instant, la rencontre a débuté sur une très bonne base. 2-1 pour Joao Fonseca. Et je cherche, ça y est, Guga est là. J'étais inquiet parce que il devait prendre un petit verre dans la tribune officielle. Ah. Donc ça y est, les deux. Et Maria Sharapova est dans les murs. Et je pense, et je sais pas mes jumelles, j'ai oublié mes jumelles.
Mais on m'a dit qu'elle te cherchait, donc tu risques
oui, on ne s'est pas trouvé. On s'est pas trouvé.
Écoute, tu finiras par tomber sur l'ancienne championne.
Elle n'a pas trouvé la cantine de la presse.
Russe. Du beau linge, donc.
Si tu veux croiser Alex Agnew, c'est à la cantine de la presse que tu
vas. Bien sûr, toujours. Eric, bien placé, jamais loin du buffet. À tout à l'heure, Eric. Mensik Fonseca, c'est l'affiche de cette Night Session. Vous ne bougez pas, Génération. On te revient dans un instant. Jimmy Brand, Kevin Diaz, Elton Mokolo. Et vous, évidemment, comme d'habitude.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Simon Dutin.
L'after est là tous les soirs de l'année. On est à J-9 de la Coupe du Monde 2026. Donc vous ne manquerez rien, évidemment, sur RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Jimmy Brown, Kevin Diaz, Elton Mokolo pour vous accompagner jusqu'à 22h avant de passer la main à Nicolas Jamin pour l'after en compagnie de Florent Gautreau et Daniel Riolo. Gilles Vessière, notamment, sera invité, ancien arbitre international. Il a beaucoup de choses à partager, beaucoup de souvenirs à raconter. D'ici là, nous, on continue notre projection sur ce tournoi. On parlait avec les copains des favoris, de ceux qui pourraient être outsiders, de ceux qui pourraient se rater. J'ai beaucoup aimé l'audace de Kevin qui je parle en toute sincérité, qui parle du Brésil comme d'une potentielle surprise. C'est vrai, oui, que si le Brésil ajouter une sixième étoile, ça ferait six, hein. Il va falloir faire de la place, hein, sur les cuissons. Ce serait une relative surprise dans le monde du football.
C'est sérieux quand vous dites que c'est pas une surprise si le Brésil gagne?
C'est un peu surprise.
Une équipe surprise, c'est pas forcément un petit qui va en huitième. Une équipe surprise, c'est pas forcément un petit qui va loin. La Turquie, ça peut être une équipe surprise. Le Brésil qui va loin dans une Coupe du Monde.
Ah, c'est pas une surprise.
Non, c'est pas une surprise.
Kevin, mais ils ont fait quart de finale. Ils ont fait quart de finale.
Non, ils étaient quart de finaliste.
Oui, mais là, ils arrivent moins bien qu'en 2022. En 2022, ils ont Neymar quand même encore quasiment dans son prime.
Enfin, excuse-moi, dans le football de sélection.
Ça n'a rien à voir, les gars.
Dans le football de sélection, excuse-moi, il n'y a pas 8 équipes qui sont au-dessus du Brésil.
Voilà. C'est pas la question d'avoir 8 équipes. Je vous ai dit que c'est finale ou demi ou finale ou victoire.
Au départ.
Finale ou victoire.
Au départ, on a dit équipe surprise. Tu dis Brésil. Déjà, surprise et Brésil. Ça marche pas.
Moi, je pense que nos auditeurs.
On passe au favori. C'est qui ton favori?
Mon favori pour gagner la compétition.
Je rappelle avant ça, Brésil dans le groupe C avec le Maroc, Haïti et l'Écosse. Donc voilà.
Honnêtement, je n'ai pas de favori numéro 1. Ouais, j'ai 4 équipes qui peuvent la gagner, qui sont favoris pour moi. Dans ces 4 équipes, je mettrais l'Argentine pour le back-to-back. Je mettrais la France, je mettrais l'Espagne et potentiellement une équipe comme l'Angleterre qui, pour moi, quand même, sur les 5 dernières compétitions mondiales, a montré qu'ils étaient toujours au rendez-vous. Alors pourquoi le football ne pourrait pas enfin coming home?
J'aime bien.
It's coming home.
Mais quatre équipes, mais pas le Brésil. Le Brésil peut la gagner, t'as compris?
Mais le Brésil, ils sont pas dans les 4 favoris.
Surprise.
Regarde les bookmakers. Ils sont pas dans les 4 favoris.
Ils sont pas très loin quand même. Mais, moi, l'Espagne et la France. Mais dans cet ordre-là, d'abord l'Espagne, ensuite la France. L'Espagne, avec les quelques réserves que tu peux avoir sur l'état de santé de Lamine Yamal et dans une moindre mesure de Nico Williams, qui est moins fondamental que Yamal. Mais si Yamal, il arrive à 100% en Coupe du Monde, franchement, parce que moi, je suis encore sous le choc de ce que j'ai vu à l'Euro, en fait. J'ai vu tellement fort à l'Euro les Espagnols. On l'a dit, on l'a répété, c'est la seule équipe, t'as l'impression qu'ils jouent, c'est comme un club, en fait. C'est comme du foot de club. Ils sont tellement rodés, tellement faciles. Même là, le dernier rendez-vous que j'ai, le dernier match marquant que j'ai, c'est la Ligue des Nations contre la France, où tu sais, ils réduisent l'écart sur la fin. Mais c'était un massacre.
J'ai une question pour Jimmy, parce qu'on a une accointance particulière avec ce pays. Tu crois que les Pays-Bas, ils peuvent faire un truc?
Franchement, ça, je serais très surpris. C'est peut-être une des générations les moins talentueuses.
Mais ils arrivent par la porte de derrière.
Ils avaient fait demi-finale lors du dernier Euro où ils perdent à la 93e minute face à l'Angleterre. Et maintenant, de là à rééditer une performance similaire et aller dans le dernier carré de Coupe du Monde, j'y crois pas.
Après, la Coupe du Monde, c'est pas plus dur que l'Euro.
Ah non, c'est pas plus dur, au contraire.
Avec un Daniel Malen qui a crevé l'écran,
en Italie,
qui arrive pas en confiance, qui va
passer. Quand on parlait des Pays-Bas à l'époque, je te retrouve là, le mec que tu cites en premier, mais oui. C'est Malen dans la sélection. C'est très bon joueur, Malen.
Il y a quand même mon gars sûr.
Mais tu vois, Francky.
Francky,
oui, dans quel état il est? Il le suit avec le Barça toute la saison, c'est compliqué, Deyon.
Il
est mieux, là,
Il n'a plus de match sérieux depuis février.
Tu vois, c'est ça, il arrive dans quel état?
Ouais, mais il est frais. Il y a un juste milieu entre arriver frais et être compétitif.
T'as vu, la compétition, elle va durer 72 ans. Donc,
c'est pas faux. Il a monté en puissance pendant la Coupe du Monde, ça, c'est sûr.
Personne n'a cité la Belgique, autour de la table, je note les Belges un peu en retrait.
Ce que j'ai vu contre la Croatie.
Il y a des équipes, moi, comme.
On rappelle, ils viennent de battre les Croates 2-0 en Amérique.
Il y a des équipes qu'on connaît un peu moins, comme l'Équateur, qui peuvent être, pourquoi pas.
L'Équateur, la défense qu'ils ont, Pacho, Incapier, tu as Caicedo au milieu de terrain, tu as des sacrés joueurs.
Moi, je pense que ça peut être des
Ordonez,
parce qu'en plus, n'oublions pas. On parlait d'engouement. Alors, forcément, pour les États-Unis, le Mexique aura un engouement énorme, mais je pense pas qu'ils ont une énorme génération. Mais l'Équateur, c'est pareil. Il y aura énormément d'Équatoriens dans les stades. Les Colombiens, ça va être pareil. Et l'Espagne aussi, parce que l'Espagne, il y a quand même beaucoup d'Espagnols d'origine, etc. Donc,
enfin, non, là, il est en train de nous expliquer qu'il y a des gens qui se dépassent pour la Coupe du Monde.
Non.
Merci Sherlock, on avait compris.
Ils vont pas se lâcher de l'émission. On va demander son avis à Aboubakar, qui a fait le 32-16, qu'on est content d'accueillir dans Génération After. Salut Aboubakar.
Salut les gars.
Salut Aboubakar. Alors, tu roules pour qui dans ce mondial et qui tu vois se rater, qui tu vois créer la surprise?
Non, surtout moi, si j'ai appelé, c'est parce que vous avez parlé de sélection africaine et vous avez oublié la sélection incontournable de l'Afrique.
RDC.
La sélection de Didier Drogba.
Ah oui,
t'as raison. Mais après, groupe difficile, les Ivoiriens.
Ouais. Qui s'avance peut-être avec une génération un peu moins flamboyante que les Yaya Touré.
Encore que, j'ai beaucoup aimé leur canne, les Ivoiriens.
On a une attaque de feu, les gars. On a une attaque de feu, s'il vous plaît, les gars.
Vends-nous la Côte d'Ivoire.
Attaque de feu, doucement. Là, t'arrives à la Côte d'Ivoire.
Non, j'aime bien demander tout. Moi, j'aime bien. Moi, je suis avec toi. Aboubakar.
Alors, la Côte d'Ivoire qui sera avec l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao dans le groupe.
C'est ça, il faut sortir avec l'Allemagne, l'Équateur. Allemagne et Équateur, ça va être dur. Ça va être en tout cas des plus beaux matchs de risque d'arriver dans ce groupe en face de poule.
Non, ça va pas être dur du tout. On est soit premier ou soit deuxième. C'est simple.
J'aime Aboubakar.
Attention avant que la compétition commence.
C'est qui la tactique?
Vous allez finir quatrième.
Alors, trois cannes, les gars, quand même. C'est peut-être pas rien, mais un trois cannes, quand même. On va pas trop doucement.
Après, je sais pas si ça t'a échappé, mais on parle de la Coupe du Monde.
On vient quand même avec certains
galons. Non, je te fais marcher parce que le tournoi il a été quand même intéressant, même si ça se finit pas bien contre l'Égypte.
Ouais, et d'ailleurs, franchement, c'est parce que l'Égypte, on a un problème avec eux.
Ouais, en plus.
Alors oui, non, mais... oui, bah, justement, la CAN est une autre compétition. Aboubakar, pour ceux qui seraient moins au fait du football ivoirien, fais-nous rêver un petit peu là, le 11 le plus redoutable de la Côte d'Ivoire là.
Bah déjà en défense, en tant que gardien, on va mettre qui? Je pense Fofana. Après, il y a Lafond qui est connu en France, mais je pense que c'est plus Fofana qui va être le gardien. Après, défense centrale, on a qui? On a Kosunu et Ndika.
Ouais, c'est ça.
Costaud.
Avec Diomandé du Sporting aussi, qui est un bon joueur aussi.
Exactement. Après, moi, j'aime bien Singo, mais bon.
T'as Guéladoué.
Il y a Guéladoué.
Guéladoué qui a fait une vraie bonne canne.
Ah oui, excellent. Il est excellent. Il s'est bien acclimaté au football africain. Moi, j'avais un peu peur. Son premier match, il a fait un peu flipper. Après, il était excellent. Milieu de terrain, on a Seko.
T'as la révélation de la CAN. Moi, j'ai adoré. C'est le petit Inao Oulaï au milieu.
Inao Oulaï, exactement. On a le petit qui est excellent. On a toujours nos éléments forts comme Kessier, comme Seri. Et puis, on a Ibrahim Sangaré qui est généralement aussi les titulaires et tout. Donc, on a un milieu pas mal. Et en pointe, on a qui?
C'est l'interrogation.
Il y a Eli Wahi qui arrive, qui va faire la Coupe du Monde.
Eli Wahi, Boni.
On a Pépé qui revient. On a Amad Diallo. Donc attention, les gars. Amad, c'est pas mal. C'est fort.
Ouais, c'est pas lui qui va jouer en pointe. C'est pas Amad Diallo qui va tenir la pointe.
Non, sur le côté.
Non, mais t'as plein de très bons joueurs, c'est vrai.
On a quand même demandé.
Diomandé de Leipzig.
Attention.
Et Nico Pépé, je ne sais pas si on l'a cité, mais
qui est top 5 meilleur joueur de Ligue 1.
Oui, bah ça, ça.
Ah, ça y est, il m'a mis dans ma Coupe du Monde à Boubacar.
Ça gigote bien,
j'y suis, on va suivre. On va suivre.
Un peu de respect.
Non, t'as raison.
Bien sûr, mais bien sûr.
Tout le respect pour la Côte d'Ivoire.
En plus, ce que j'ai beaucoup aimé chez Merfaï, c'est qu'il a ouvert son groupe, il a rajeuni l'effectif, il a quand même donné du galon à Diomandé et à Amad Diallo qui n'était pas présent lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai l'interrogation sur le poste d'avant-centre. On sait que ça a été le talon d'Achille sur la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que Boni ou Wahi, il y a l'un des deux joueurs qui va s'imposer? Ça va être une question très importante.
Bon, avec tout le respect que je dois à Eli Wahi, c'est peut-être le poste de la sélection où...
Finis ta phrase.
Le moins peur.
Ah voilà, c'est bah non, voilà. Je suis pas
le moins le moins l'état.
Il faut voir ce que tu avais avant Wahi. Moi je pense qu'il sort d'une bonne fin de saison.
La question n'est pas de savoir si Eli Wahi est un bon joueur. On parle de, vous l'avez rappelé, de Coupe du Monde.
Il t'a pas échappé à un truc, le poids de l'avant-centre en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années, parce qu'il y en a un qui est passé et qui a tout cassé, il est très important. On te regarde avec une loupe, elle est très importante. Donc t'as pas intérêt à te louper.
Bon.
C'est vrai, ouais.
T'as vu, j'ai raison ou j'ai tort?
Ah non, c'est vrai, Drogba, c'est quelque chose.
Ah bah oui.
Ah bah, quelle légende, oui.
Ça pourrait être un avis de Kevin Diaz, ça. Drogba, c'est quelque chose.
On le rappelle.
Franchement, moi, je suis très déçu de Kevin. Hein. Franchement, Kevin, c'est mon gars. Kevin, t'as oublié de citer la Côte d'Ivoire. Toi et moi, on a un problème aujourd'hui.
Hein. Ah non, on pouvait pas citer les 48 Kevin sélections.
Non, tu remarqueras, il a préféré citer en surprise le Brésil.
Bon. Ouais, il préfère parler du Brésil, mais c'est pas grave.
Attends, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que t'as pensé de la vie d'Elton tout à l'heure? Non, je plaisante. Le Brésil qui est champion du monde, c'est une surprise ou pas?
C'est oui, c'est non.
C'est oui, d'accord, non, pas d'accord.
Je te dirais. Franchement, ouais, c'est une surprise, ouais.
Eh
ben
merci.
Voilà.
Merci.
Merci.
Allez, bonne soirée.
Merci. C'est ça,
20h58.
C'est pas grave.
Bonne soirée.
Salut à Boubacar.
Tous les salut coups sont perdus ce soir. Merci beaucoup à Boubacar et bonne Coupe du Monde. À l'écoute de RMC, évidemment. La Côte d'Ivoire, je le rappelle, dans le groupe E, en compagnie de l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao. Jimmy Brown, Elton Mokolo, Kevin Diaz. Nous accompagne dans un instant la deuxième heure de Génération After. On va revenir en Ligue 1. On ira retrouver Maxime Tillet sur la Côte d'Azur, parler des dernières infos du côté de l'OGC Nice. Vous ne bougez pas.
RMC.
Jimmy Brown, l'After Foot face au Tchad. Bah,
c'est un match contre. C'est ça, ouais, compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps et qui peut
profiter. Compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps, alors laisse-moi comprendre.
Le tic-tac.
Ah, tic-tac, quoi, qui peut.
Ouais, ouais, c'est d'accord. Ça.
Non, c'est plutôt un joueur qui a égayé sa palette, comme on dit avec Mourinho.
Élargi, peut-être.
Ouais, et élargi.
20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
Et le best-of, les archives de Génération After s'enrichit chaque soir, chaque émission, peut-être encore ce soir, en compagnie de Kevin Diaz, Jimmy Brown, Elton Mokolo. On est ensemble en direct jusqu'à 22h avant de passer la main à Nicolas Jamin pour l'After en compagnie de Florent Gautreau, Daniel Riolo, Gilles Vestière, ancien arbitre international, qui sort un ouvrage qui rassemble tous ses grands souvenirs d'arbitre international, sera à l'invité de Nico. Il aura évidemment beaucoup de souvenirs à partager. Si vous avez raté la première heure de l'émission, je vous invite à la podcaster. Dès que vous aurez un petit peu de temps, on s'est projeté avec Jimmy, Elton et Kevin sur ce mondial qui commence dans 9 jours seulement, à peine, et dont vous ne manquerez rien sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Les favoris, les outsiders, la Coupe du Monde des entraîneurs nous a fait remarquer Elton, un casting de luxe, de choix sur les bancs, ce qui a un petit peu surpris notre ami Kevin.
Un avis au combien tranché de la part
voilà,
d'un
avis tranché.
Là, c'est l'avis tranché de l'année.
Sa chambre depuis.
Écoute, c'est pas loin, mais je t'en laisse soin de penser ça.
Voilà, on se régale évidemment. Bon esprit comme d'habitude. On va revenir un petit peu en France parce que. Quelques jours seulement après avoir assuré son maintien en Ligue 1, l'OGC Nice se projette déjà vers la saison prochaine. Elle sera forcément différente en termes d'objectifs, de moyens.
Vous souhaitez pour les supporters de soi.
Oui, mais peut-être même en visant des objectifs avec des moyens peut-être recalibrés. Qui sait, d'autres personnes sûres en dehors du terrain. On rappelle qu'à l'été dernier, le gym disputait les barrages du tour préliminaire de Ligue des Champions.
C'est ça, oui.
Éliminé par Benfica, mais après une magnifique
C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Dante dans ce fameux discours-là, qui deviendra fameux, en tout cas je le sais, à Nice. Parce que c'est un discours extraordinaire, très émouvant et très juste.
Juste avant le barrage retour,
il dit justement que que voilà, pour lui, c'est une fierté et qu'il fallait absolument laisser ce club à cette position.
On se souvient qu'on était un petit peu inquiet quand même, hein, en début de saison dernière pour Nice, mais on les voyait pas quand même faire une saison aussi compliquée, puisque quasiment un an plus tard, une 16e place en championnat, finale de Coupe de France, perdu face à Lens. Alors Nice, c'était un tournant, messieurs, on va en parler avec notre correspondant RMC Sport sur la Côte d'Azur, au plus près de l'actu des Aiglons, Maxime Tilliette, qui passe une tête dans Génération After. Salut Maxime.
Salut Simon, Kevin, Elton, Jimmy, bonsoir.
Salut Maxime.
Salut Maxime. Maxime qui est le guignard d'or de cette saison, quand même, il faut le dire. Il avait Nice et Monaco en début de saison, ouais. Barrage Ligue des Champions, exactement. Ils finissent l'un 16e, ils allaient descendre, les autres même pas en Coupe d'Europe. Ouais. Bravo guignard, Maxime.
Guignard jusqu'au bout, ouais. Je l'ai croisé.
En plus, il allait te poudrer à Cannes, horrible.
Je l'ai croisé à Cannes avant le match de la montée.
C'est une horreur. Ne croisez pas Maxime Tilliette, il peut vous arriver des soucis.
Le guignard, mais c'est quand même lui qui a le plus beau bronzage de toute la rédaction foot de RMC. Maxime, avant de se projeter sur la suite, sur les chantiers nombreux de l'OGC Nice, raconte-nous un petit peu les derniers jours du côté de Nice, du club, et notamment depuis ce maintien en Ligue 1 arraché face à Saint-Etienne.
Bah forcément un immense, immense, immense ouf de soulagement après ce dénouement exceptionnel, malgré un barrage retour assez compliqué. L'entame était quand même très, très laborieuse pour le gym. Les événements ont été contraires, avec un rouge non accordé sur une faute sur Melvin Barr, un pénalty un peu tombé du ciel qui remet Saint-Etienne dans le match. Et derrière, malgré ça, ils mettent 3 buts en 10 minutes et ils se sauvent. Et ça permet de célébrer Dante, vous en parliez, c'est très important. D'ailleurs, le club, depuis le vendredi, travaille pour célébrer une nouvelle fois Dante, mais avec du public, parce que c'était quand même un peu triste de le voir quitter la scène de la sorte sur un coup de coude, la bouche en sang, qui plus est. Donc, le 18 juin, des festivités seront prévues dans Nice, autour de Dante, en sa présence. On sait d'ailleurs, désormais, c'est officiel, qu'il entraînera la saison prochaine, ouais. U23 du Bayern Munich. Et puis sinon, au-delà de ça, en parallèle, il y a ce fameux fonds américain dont on ne connaît pas encore l'identité, mais qui discute avec Ineos. On nous fait comprendre que rien ne se passera d'ici la mi-juin. On ne sait pas vraiment s'il est question d'une vente partielle ou totale dès cet été. Il est possible que ça se fasse progressivement. C'est assez flou. Très peu d'infos filtrent à ce sujet. Mais quoi qu'il arrive, il faut reconstruire, repartir quasiment d'une feuille blanche. Parce que aujourd'hui, c'est la mission de Maurice Cohen qui est revenu cet hiver au club. Il y a Jean-Claude Blanc aussi qui l'aide dans cette mission, le PDG d'Ineos Sport. Jean-Pierre Hivert, lui, il l'avait annoncé à son retour, sa mission s'arrête maintenant. Florian Maurice et le gym se sont séparés d'un commun accord il y a quelques heures, puisque ça a été officialisé et communiqué hier soir. Donc désormais, la suite, pour lui succéder à la direction sportive, on parle avec plus qu'insistance de Geoffrey Moncada. Alors c'est pas encore officialisé, mais il est quand même déjà très actif. Pour vous le présenter en deux mots, il a 39 ans, il est originaire de la région et surtout il vient de sortir de 8 années à l'AC Milan,
d'où il vient de se faire vider comme un malpropre par le boss. C'est pour ça que je dis quand même malpropre, parce que il n'était pas quand même le seul responsable.
Responsable du recrutement, directeur technique, il a eu pas mal de taf. Il était aussi avant ça pendant pas mal d'années à Monaco, donc il connaît le contexte. Maurice Cohen va rappeler aussi Roger Ricord, qu'il a eu sous ses ordres à l'époque, jusqu'en 2009, comme dirigeant au gym. Roger Ricord qui a joué aussi sous le maillot rouge et noir. Donc vraiment, on reconstruit totalement. Sur le banc aussi, parce que maintenant, la première mission, le but, c'est de réorganiser tout ça sans se soucier de la potentielle vente. Donc la première mission, c'est de choisir un entraîneur, puisque Claude Puel, merci pour le maintien, mais ça a quand même été très laborieux. Donc qu'il y ait vente ou pas, aujourd'hui on veut plutôt écrire l'avenir avec un Alexandre Dujeu ou un Didier Digard, qui sont les deux profils qui ressortent le plus. Pour Bruno Genesio, c'est aussi évoqué, mais on sait qu'il y a quand même une plus forte concurrence. Et puis alors là, l'effectif, entre les gros salaires, les fins de contrat, les joueurs prêtés, ceux qui déçoivent, et en plus il y en a qui coche plusieurs de cases, comme un Sofiane Diop ou un Mohamed Ali Chou, qui sont finalement des déceptions. Boudaoui, qui a un an de la fin de son contrat, comme Sofiane Diop aussi, c'est des joueurs qui malgré tout gardent une belle valeur marchande, et c'est peut-être le moment aussi pour eux de se lancer vers un nouveau challenge dans leur carrière.
Et les dernières infos de l'OGC Nice dans Génération After, grâce à Maxime Tilliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Messieurs, beaucoup de choses dans ce que nous a dit Maxime, parce que ça va bouger, on l'a entendu, au niveau des investisseurs. Alors est-ce que Ineos va passer la main, ou est-ce que Ineos va juste ouvrir un petit peu le placard, le frigo, pour partager du changement dans le staff, du changement donc dans l'organigramme et du changement chez les joueurs.
Ce qui interpelle juste, pardon, c'est le timing qu'évoque Maxime court. Quand même. Parce que si tu passes la main mi-juin, s'il y a potentielle vente mi-juin, comment on peut imaginer qu'un Moncada soit nommé avant, qu'un nouvel entraîneur soit nommé avant, alors qu'il y a d'autres actionnaires qui arrivent? Je pense que déjà c'est un peu une zone grise cette histoire de timing.
Pour moi, c'est le point le plus important parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Nice, ce serait illusoire de penser que le terrain est le plus important. Non, pour moi, la chose la plus importante, c'est la gouvernance niçoise, notamment l'organigramme qui va être défini, déjà par rapport à l'actionnariat, l'investisseur qui pourrait arriver ou pas, le directeur sportif, et ensuite l'entraîneur. Il faut que Nice puisse se reconstruire petit à petit et avec de la bonne compétence, de manière à ce qu'il y ait une influence directe sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, parler de Nice, notamment par rapport à des considérations terrain, c'est un sujet qui est annexe, et c'est fou de se dire ça parce qu'on est début juin et que les équipes vont reprendre l'entraînement dans un peu plus de 3 semaines. Mais aujourd'hui, on en est là à savoir qu'il faut reconstruire un club ou plutôt sa direction.
Maxime, le fait qu'il y ait déjà quand même autant de pistes là, comme celle que tu as énoncée dans les changements à venir, que ce soit le staff, l'organigramme, est-ce que c'est quand même pas le signe que Ineos va pas totalement se désengager tout de même?
Il y a des signaux qui pourraient laisser penser ça, d'autres non.
Après, en fait, t'es obligé de prévoir, tu vois. Que tu vends ou pas, t'es obligé de prévoir le scénario où tu restes, en fait. C'est criminel. L'inverse aurait été, ça aurait été un manque de professionnalisme total. Et on sait qu'Ineos, ils ont pas tout fait bien. La moindre des choses, c'est d'essayer de faire comme si t'allais rester là.
Ou d'essayer de proposer un projet clé en main à des futurs propriétaires. C'est également une solution.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxime? Ouais, non, mais c'est vrai, mais on nous a aussi longtemps dit que une fois le maintien acté, c'est bon, ça se débloquerait pour ces discussions-là. Est-ce que si Nice avait sauvé sa peau plus tôt, bien avant les barrages, le changement de cap aurait déjà été opéré, on ne sait pas, parce que finalement, là, Nice s'est sauvé in extremis, mais c'est sauvé, et on nous dit quand même que il y aura quand même un petit délai, une période durant laquelle il faut s'attendre à ce qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire jusqu'à la mi-juin. Parce que tout n'est pas encore finalisé. On sait que c'est toujours compliqué ce genre d'opération. Et en effet, il faut forcément prévoir le coût. Là, en l'état, on prépare un club avec un budget autour des 60 millions d'euros. Donc, c'est à peu près ce que Lens avait cette saison pour préparer la saison prochaine. Parce que l'été dernier, on tape souvent sur Ineos et à raison. Mais malgré tout, Nice faisait partie des clubs qui a réussi à le plus réinvestir l'été dernier, malgré les
départs. Et comment ils ont réinvesti? C'est ça le problème, c'est comment tu dépenses ton argent aussi.
Carlos, il y a eu des erreurs, évidemment.
Il y a eu quasi que des erreurs.
On avait souligné qu'en effet, le recrutement...
C'est quoi le déficit structurel?
Bon, là, j'ai pas le détail.
Voilà, c'est la question.
Tu sens le patron, c'est la question.
Il veut le business plan, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va reprendre le club quand il parle comme ça, Kevin.
Il a quelques idées, Kevin.
T'es sur le dos.
Il est venu te chercher sur le déficit structurel comme ça, de but en but. Tu l'aurais pas vu venir.
Aujourd'hui, blague à part, c'est très important. Ça veut dire que faut savoir à quel point le GC Nice va devoir vendre. Qui dit vendre, il n'y a pas beaucoup de valeur marchande dans ce club, donc qui dit tu ne peux pas vendre, et du coup va falloir que le nouveau propriétaire réinjecte beaucoup. C'est pas que acheter le club, c'est aussi, combler le déficit.
Messieurs, je vous coupe, je vais voir Eric Salio. Eric, c'est la mine déconfite de Jimmy Brown qui m'a incité à venir te voir. Que se passe-t-il, Roland Garros?
Il est bon, ce check.
Il nous ferait presque douter.
Ce check 45 pour Yacoub Mensik, qui a profité d'une petite faute de Joao Fonseca pour prendre un break au milieu de cette manche, et derrière il a pas molli. On va voir si dans quelques secondes il va boucler cette manche après seulement 41 minutes. J'avais un petit coup de gueule, mais là il est passé parce que les tribunes VIP étaient un peu dégarnies, mais ça y est, les gens ont mangé, tout est rempli, on est rassuré. Balle de 7, donc il se commence par un revers bien décentré, donc première balle de 7 sauvée par Joao Fonseca, 40-30. On va voir s'il peut quand même avoir du répondant, Joao. Mentalement, il a montré d'excellentes choses contre Novak Djokovic, parce que on n'en a pas parlé assez, je crois. La qualité de ce match était juste exceptionnelle. Mais un grand chelem, il faut enquiller les matchs. Et c'est vrai qu'il commence peut-être à accuser la fatigue, le jeune Brésilien. Attention, Mensik là qui monte au filet et qui conclut. 6-2 à 4 avec une volée haute de coup droit. 6-4 en 42 minutes. Joao, il faudra réagir très vite.
Tu vas encore dormir à 2h du mat, toi.
Non, ça va vite, 42 minutes, c'est très rapide, c'est parfait. Mais je me suis régalé la nuit dernière. Là, j'ai envie de me détendre à la fin des directs de la Night Session féminine. Hein. Merci les gars, au fait. Zéro intervention. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir le quatrième set sur le Langan. J'ai pas pu quitter, c'était trop bon, j'ai quitté à 1h30, c'était génial.
Bon, bah formidable. En plus, tu croiseras peut-être Maria Sharapova au buffet. Oui. D'après Matt, j'imagine que la cote de João Fonseca vient d'augmenter, mon cher Jimmy, si ça intéresse tes amis parieurs.
Je suis pas sûr qu'il mette des sous en direct, là, Jimmy.
Je suis pas au courant. Non, mais je ne joue pas, moi. C'est un mythe, ça, Eric.
Ce sont des idées reçues, des bruits de couloir, ça. Alors. À tout à l'heure, Eric, la sensation brésilienne, João Fonseca, qui est donc mené 1-7-0 en night session à Roland-Garros par le Tchèque Mencik.
On est toujours avec. À ta question, Kevin, sur le déficit.
Maxime Chilliet, il a bossé pendant la pause.
Il a fait passé, Simon, il a relancé Eric trois fois le temps que tu puisses chercher.
Merci, c'est bien joué. Non, mais pour citer nos collègues de Nice matin qui évoquaient 40 millions de déficits structurels.
C'est à ça que je pensais.
À compenser.
Ah, ça, il n'y a plus de droit télé.
Ça t'évoque quoi comme chiffre du coup?
Non, mais c'est énorme, 40 millions. Ouais. Quand tu n'as pas de valeur marchande à l'intérieur de l'effectif, 40 millions, c'est beaucoup. Donc c'est aussi peut-être sur ce genre de choses que les négociations peuvent coincer.
Oui, Maxime, je rebondis sur ce que dit Kevin. Pas de valeur marchande dans l'effectif. En effet, comment.
Vas-y, t'as Jonathan comment, Klaus.
Qui peut rapporter de l'argent à l'OGC Nice? On parle de Diop, Mohamed Ali Chou, Boudaoui.
Boudaoui a un an de la France. Titulaire au mondial. Ouais. Ça peut être pas mal. Il y a Antoine Mendy qui s'est quand même bien développé cette saison. Yevan Jouf garde une petite cote malgré tout. Il est arrivé contre 6 millions d'euros l'été dernier. Des Melvin Barr, Jonathan Klaus, Ndaye Chimier, il faut qu'il se relance physiquement. Mais c'est un joueur qui a en plus déjà un salaire assez imposant.
Il y a le petit, son nom m'échappe, qui a été buteur en finale de Coupe de France.
Koulibaly,
c'est ça.
Koulibaly, ouais. Bon, mais faut miser sur lui et l'installer. Ouais. Et la tendance, c'est de faire
confiance au jeune du club pour éviter quand même pour les Niçois, quoi.
Mofi et Boga, ils appartiennent toujours au club, ils sont toujours sous contrat. Nice peut espérer tirer un peu d'argent de la vente parce que eux,
La tendance est plutôt à ce que Jérémy Bogard reste à la Juve, parce que l'option d'achat était assez faible, autour de 4 millions d'euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Et vu l'impact qu'il a eu sur le peu de rencontres disputées là-bas, il devrait y rester. En revanche, Terem Mofi, l'option d'achat à 8 millions d'euros, ça n'a pas convaincu à Porto, ça n'a pas été suffisant. Et pourtant, Porto a fait une très très bonne saison. Il y a eu des blessés en plus à ce poste-là, mais sur ces 6 mois là-bas, il n'a pas totalement convaincu. Donc, il doit revenir. Et le but, on a été très clair sur ce point-là, l'OGC Nice, c'est qu'il ne reporte plus le maillot du club. Donc, il va falloir le sortir, mais il va falloir trouver les conditions. En tout cas, c'est sûr, ils ne rentreront pas dans leurs frais et la quasi trentaine de millions d'euros investis il y a de ça quelques années.
Et c'est ça, un Mofi, quand il arrive à Nice, c'est une sensation de la Ligue 1.
Il est payé très cher. Il a Marseille le voulait. Enfin, s'il sortait de Lorient,
quel désastre. Aussi.
Il y a il y a des performances qui ont été décevantes, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la conséquence de ce que tu ne fais pas bien depuis quelques années, même si ça a été maquillé par une qualification en tour préliminaire de Ligue des Champions, maquillé par cette récente finale en Coupe de France. Mais le fait est que dans ton quotidien, dans ce qui montre quelle équipe et surtout quel club tu es, la Ligue 1, et bah t'as une forme de déclassement aujourd'hui.
Oui, personne n'a.
Non, mais oui, mais. Je t'attendais. Il nous a laissé pantois. quand il est aussi complet dans l'analyse, qu'est-ce que tu veux dire?
La vie est aussi tranchée.
Exactement. Rien à redire, rien à rajouter.
Maxime, l'ambiance autour du club, du côté des suiveurs, des supporters que tu es amené à croiser au quotidien, il y a un peu de résignation.
Je suis content de voir cette saison se fermer et pouvoir repartir d'une feuille blanche avec quelqu'un, par exemple, comme Geoffrey Moncada, qui a travaillé dans une institution, si ce n'est la plus grande. Dans l'univers du football, pour remettre un petit peu les points sur les i dans ce club, dans ce vestiaire. Et puis il y a de la tristesse aussi de voir par exemple le jeune Kyle Boudache qui aura eu sa chance bien trop tardivement à l'OGC Nice et qui du coup c'est compliqué de le retenir quand il a l'opportunité d'aller signer et de rejoindre l'Olympique Lyonnais où le projet est sans doute déjà bien plus clair que du côté de l'OGC Nice.
Ça c'est une perte, hein, parce que Boudache est un sacré joueur et en plus malheureusement tu récupères pas de sous sur lui. Ouais. Il aura été bon jusqu'au bout. Hein. Il est buteur sur le barrage retour aussi.
Ça a été un enfant de la crise dans les moments compliqués, dans le moment compliqué pour l'OGC Nice, bien qu'il a réussi à entretenir un peu d'espoir, d'avoir des performances. Et malheureusement, même là,
t'as pas une valeur marchande qui peut servir au club.
Ouais, c'est compliqué.
Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maxime, on espère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter la saison prochaine pour le GC10 un maintien plus confortable.
Ah oui, bah, je pense qu'il
va falloir le retour des ambitions.
Plus haut que ça.
Il va falloir le retour des ambitions, Maxime. Tu peux pas poudrer tout le monde tout le temps. Hein. Il va falloir y aller. Hein.
Non, mais j'ai quand même eu mes clubs.
Franchement, t'as des clubs tranquilles.
Toi, c'est année impair, je crois. C'est année impair où ça performe chez toi. Là, c'est 2027, ça peut être pour toi. 26, 27,
on va voir. S'il y a un projet clair qui est redéfini, s'il y a un chef de navire à bord, ça peut fonctionner une nouvelle fois, on l'espère.
Bon, voilà.
Thiago Scorro, ça reste.
C'est loin d'être fait cette histoire.
Ah ouais.
Du coup, à Monaco.
On parle de Monaco, hein, en précis, bien sûr.
Ouais.
On a fait 25 minutes un peu plus au nord.
Oui, la mec.
Non, mais il a eu un rôle quand même dans la venue de Philippe Luis c'est un atout pour Philippe Luis d'arriver dans un club où il y a un dirigeant qui peut faciliter les choses. La
t'as l'impression qu'il fait sauter les entraîneurs pour garder sa place à chaque fois. C'est un acteur, il a mis Pocognoli en disant regardez, c'est moi qui ramène Pocognoli. Là, il leur fait 6 mois plus tard. Eh les gars, Philippe Luis, c'est moi.
C'est la montre religieuse.
C'est fou. Il arrive à tenir comme ça.
Viens, je vais te recruter. Allez, boum.
Après, d'un autre côté, Luis Campos, il avait choisi Galtier, c'était pas son meilleur choix, mais il a réussi à bien rebondir.
Il a bien rebondi. Ouais.
Non, mais t'as Philippe Luis, ça
parlera sans doute dans quelques instants.
Si on finit un peu sur l'AS Monaco, alors oui, tu dis que c'est un joli coup, Philippe Luis.
Ça ressemble à un joli coup.
Moi, je croyais aussi qu'à 18h, ça pouvait être un beau coup. Je croyais aussi que Pocognoli, ça peut être intéressant. Et au final, malheureusement, il n'y a rien d'intéressant au final parce que c'est très, très compliqué. Donc,
restez branchés à 22h. On a Damien Périnel qui était dans le club pendant 4 ans.
Du coup, il n'y a plus de droit de réserve. On y va, on envoie.
Ah, il va tout envoyer, Damien, à 22h.
Ah ouais, tu nous promets.
Restez branchés.
Il a quitté récemment Monaco,
il a été adjoint pendant 4 ans là-bas, 4-5 ans, je crois.
Non, mais c'est vrai que c'est un concept bizarre. Bah, Kevin, t'es en face, c'est un concept bizarre. T'es fragilisé, t'es menacé, mais tu nommes un entraîneur. Ouais, il aurait fallu qu'il y ait un droit d'inventaire, on fasse une remise en question globale avant d'annoncer des choses.
Mais après, Maxime, moi j'ai entendu que c'était plutôt Avinia, de nommer Avinia, que je ne connaissais pas d'ailleurs, dont j'ignorais l'existence, qui a géré ce dossier un peu plus en direct.
Mais surtout qui a pris du poids dans les décisions, surtout sportives, depuis quelques mois, où voilà, Ribolovlev.
Mais c'est quoi son rôle dans l'organigramme?
Qui est cette personne,
il est directeur technique, Carlos Avinia, il était avant ça du côté du Cercle Bruges, donc le club détenu par l'AS Monaco en Belgique qui se maintient depuis plusieurs saisons qui fait des choses plutôt pas mal, où d'ailleurs le petit Eden Diop était prêté cette saison et devrait revenir cet été à l'AS Monaco, mais voilà, c'est un profil assez jeune aussi qui a sur le continent que vraiment cette expérience, parce que sinon avant c'était plutôt en Amérique du Sud. À lui de faire ses preuves désormais aux mains du côté de l'AS Monaco avec un club aux ambitions européennes, et là en revanche ce sera à lui de faire les choix sportifs davantage, à moins que Dimitri Ribolovlev décide, un peu comme à l'AC Milan, de mettre un grand coup de chausson. Mais mon petit doigt me dit que s'il avait voulu le faire, il l'aurait déjà fait plus tôt. Et le fait d'enclencher un cycle avec un nouvel entraîneur montre que on devrait sans doute repartir avec le tandem Scuro-Avinia, mais avec un Avinia renforcé au niveau des décisions. Il a notamment contribué à l'avenue d'un nouveau directeur de la performance, puisque voilà, pour
le grand expliquer enjeu,
cette saison ratée, voilà, on a fait sortir à Monaco Yann Lemaire, qui était directeur de la performance depuis pas mal de saisons, et qu'il y a eu des saisons où physiquement l'AS Monaco était vraiment plus qu'au point. Cette saison, c'était pas le cas du tout.
Ah oui.
Mais donc on a fait appel à un ancien du Real Madrid, Javier Arnaiz, et dans cette décision-là, Carlos Avinia a eu un poids également.
Bon, en tout cas, on va suivre ça évidemment grâce à toi, Maxime, notre spécialiste Côte d'Azur. AS Monaco, OGC Nice et puis Jet Set évidemment lorsque il en a le temps. Et bravo pour le coup de chausson, hein. On adore, on apprécie. Bravo Maxime et merci encore d'être passé nous donner les dernières infos.
Salut Maxime
de l'OGC Nice. Petit détour par Roland Garros. Eric Salio, est-ce que le jeune Fonseca réagit après la perte du premier set face à Mensik?
Il va rien lâcher, mais bon, c'est un peu tôt pour le dire. Il y a un partout dans le deuxième set, mais il mène 30-0 sur sa mise en jeu. Mais Mensik, c'est un mec qui fait quand même 1m96, qui frappe très très fort dans la balle. Il s'était révélé l'an passé en remportant le Masters 1000 de Miami en battant Novak Djokovic. Djokovic, pardon. C'est pour Suzanne, ça. En finale. Mais c'est un mec qui est dangereux. C'est un mec qui est très dangereux et qui peut poser des problèmes à n'importe qui quand il est bien luné. Et c'est le cas, visiblement, lors de cette quinzaine de Roland. Donc 6-4. Mensik, un partout dans la deuxième manche.
Et ça tombe de haut au service, ça met des sacrées tartes en coup droit. On aime bien ce Mensik également.
J'invite à venir, Simon, là, à Roland, et tu vas voir, ça fait un bruit sourd.
Oui, mais tu sais, moi, il y a des gens qui vont mieux que j'ai vu de croiser en ce moment.
J'ai un joyeux sanglier à te présenter.
Oui, voilà. On en reparlera, mais petite fierté quand même, voilà, d'avoir été cité par nos vénérables confrères du Guardian. À tout à l'heure, Eric, pour la Night Session à Roland Garros. Vous le savez, je vous le disais, l'histoire des best-of des génériques de l'after, de Génération After, elle s'écrit chaque soir, elle s'est écrite encore ce soir. D'où il vient de se faire vider comme un malpropre par le boss.
Pêche.
Voilà, création de Paul Luxon, on m'a dit qu'il y avait un jingle à faire.
Ouais, vider, ouais.
Voilà.
Vider comme un malpropre, c'est vrai qu'à la réflexion, ouais.
Ouais. Vider, ouais, c'est viré, quoi. Vider, ça marche aussi.
Là, je reprends mes esprits. Vider comme un malpropre, ça marche pas. C'est refusé.
Ah, vider, virer comme un malpropre.
Oui, c'est viré comme un malpropre.
Là, t'as le VAR, c'est refusé.
Bon, merci les Châteaubriands.
Non.
Si vous voulez les jouer comme ça, les jingles, il n'y a pas de souci.
Il y a des grands conseils qui sont passés avant nous, qui nous ont imposé des expressions. On les respecte.
Il n'y a pas de problème. Écoutez, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu mon petit jingle. Elton Mokolo, Kevin Diaz, Jimmy Brand et vous qu'on attend nombreux au 32-16 dans Génération After qui revient dans quelques secondes à peine.
RMC jusqu'à 22h, Génération After,
Simon Dutin.
Accompagné jusqu'à 22h par Jimmy Brown, Kevin Diaz, Elton Mokolo, Génération After, comme tous les soirs. Avant de passer la main à Nicolas Jamin qui officie à la place de Gilbert pour l'After. Damien Périnel, ancien copain de la maison, qui vient de quitter ses fonctions d'adjoint du côté de l'AS Monaco, invité de Nico. Tout comme Gilles Vessière, ancien arbitre international, qui publie un livre dans lequel il raconte évidemment beaucoup de truculents souvenirs de sa carrière d'arbitre international. L'after, 22h minuit. D'ici là, nous, on revient un petit peu sur la fin des festivités qui ont entouré le sacre du Paris Saint-Germain. Puisque cette saison de foot en club vient à peine de se terminer, qu'on se projette évidemment sur la suivante. Alors, c'est la Ligue des Champions qui nous intéresse ce soir. Ligue des Champions, où la saison prochaine, le PSG aura plus que jamais la cible sur le dos, dans le dos. Alors, après le back-to-back, j'ai bien aimé Gonzalo Ramos qui dit le back-to-back. C'était mignon, j'ai trouvé. Après le back-to-back, le club parisien visera le...
Tripit.
Le tripit, voilà.
Louis Campos, il a dit le back-to-back-to-back.
Le tripit. Alors, dans l'histoire de la Coupe des clubs champions, puis Ligue des champions, combien de fois ça a été fait et par combien de clubs? J'aime bien les petits
trois fois.
L'Oréal...
Le Real de
Milan
deux fois,
et l'Ajax. Ouais. Bayern et Ajax.
Oh là là, ils sont imprenables.
Après, sincèrement.
Le Real, 5 fois de suite, de 1956 à 1960, et 3 fois de suite de 2016 à 2018. L'Ajax, 1971-1973. Et le Bayern, en effet, 74-76. Bon, voilà, le PSG qui pourrait.
Il
n'y
a pas Liverpool aussi, non?
Non, Liverpool, c'est deux fois.
Deux fois.
Donc, okay. Le PSG qui pourrait quand même, entrer en très très bonne compagnie.
Ah, bah là, tu peux dépoussiérer des records, là,
limite. Ah, bah ce serait.
Même si t'as eu le Real Madrid de 2016 à 2018.
Déjà, voilà, puisque c'est la seule équipe à l'avoir fait version Ligue des Champions dans ce qu'on appelle l'ère moderne du football. Le PSG pourrait donc être la quatrième équipe de l'histoire à réaliser un tel exploit, et ça, Jimmy Brown y croit, à vie tranchée.
J'ai appelé le Standard, et à l'époque, Max, c'était un peu comme une séance de psy, tu vois. J'ai appelé le 32-16, ça coûtait moins cher que d'aller chez le psy.
Excellent psy, Max. Hein.
C'est vrai. Ah ouais. C'était un autre temps, c'était quand je sortais du Parc des Princes au début des années 2010. On peut dire que c'était pas tout à fait la même époque.
Une belle qualité d'écoute, notre cher Max, absolument, qui vous attend au 32-16. Jimmy, on t'écoute. Le PSG, déjà favori, on peut déjà le.
Oui, moi je pense que pour plusieurs raisons, en fait. C'est la déclate d'Mbélé, elle m'a interpellé dans un premier temps. Et en fait, je saisis l'opportunité de cet avis aussi pour faire une espèce de mea culpa, parce que je vais être très honnête avec vous. Moi, je n'imaginais pas le PSG capable du back-to-back jusqu'à très tard dans la saison. Et ils ont prouvé, en fait, que Luis Enrique a prouvé encore une fois qu'il était, qu'il maîtrisait tous les paramètres. Et il y a plusieurs choses qui me font dire que le PSG est désormais favori, même pour la saison prochaine. C'est la jeunesse de l'effectif, c'est la première chose.
C'est une équipe qui a moins de 25 ans de moyenne d'âge. J'ai vu que c'était la troisième équipe la plus jeune à avoir remporté la Ligue des Champions, derrière le PSG de la saison dernière et derrière l'Ajax de 95. Et on sait, Kevin connaît bien l'Ajax de 95, qui était une équipe extraordinaire, mais qui n'avait pas les moyens.
Edgar Davids, Clarence Seedorf, Freisinger. Voilà,
une équipe monstrueuse, mais qui n'avait pas les moyens à l'époque économiquement de pouvoir garder sa structure d'effectif. Le PSG, c'est un effectif jeune et un club qui a les moyens de garder ses joueurs les plus importants. Donc là, t'as eu cette année, tu t'es planté sur Chevalier, tu t'es planté sur Zabarnie, on va dire les choses, les deux recrues importantes. Et malgré ça, t'as réussi à performer. Safonov a fait une Ligue des Champions tout à fait honorable. Il a réussi
Je te coupe. Safonov, il est. Enfin, je vais peut-être dire. Il s'est installé comme un des meilleurs gardiens d'Europe, non? Enfin, au bout d'un moment, il va falloir quand même le dire.
Sur la saison, il n'y a pas de débat. Oui,
ce que je veux dire, c'est que c'est plus qu'une roue de secours qui a fait le boulot.
Ah clairement, il a pris la place, il a très bien pris puisqu'il les a amenés jusque sur le toit de l'Europe. Donc, il n'y a pas de débat. Zabarnie, tant bien que mal, il a fait ses matchs de championnat, mais on a réussi à avoir Marquinhos et à garder, en fait, le symbole aussi, c'est de réussir en finale à retrouver les 10 joueurs de champ que tu n'avais pas eu de la saison.
Hallucinant.
Sur la même équipe qui a battu l'Inter, qui avait écrasé l'Inter la saison d'avant. Donc voilà, c'est un effectif jeune qui va être amélioré, je pense, à la marge. Tu vas avoir, tu vas régénérer l'effectif avec quelques départs, probablement Barcola qui a envie de plus de temps de jeu, probablement Ramos également, mais qui seront remplacés. Tu as aussi un staff emmené par Luis Enrique qui est probablement le meilleur entraîneur du monde actuellement, mais qui a un staff autour de lui, on n'en parle pas assez je trouve, avec des universitaires, en fait c'est des pointures, les mecs à tous les postes, que ce soit Raphaël Paul le préparateur physique qui a réussi à gérer d'une main de maître, en fait d'arriver à un pic de forme là au moment où il faut, etc.
Dans une saison qui était un peu casse-gueule parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas eu d'interruption
et... un entraîneur des gardiens qui fait progresser aussi, enfin je veux dire, ils ont un staff, il y a une armée de mecs ultra compétents, ça c'est un deuxième point. Mon troisième point, c'est de dire que finalement, la concurrence, je regarde dans les top clubs européens, tu as qui aujourd'hui? Tu as le Real qui est en pleine reconstruction, que j'imagine pas sur la saison prochaine arriver. Tu as un Liverpool qui a beaucoup investi, mais qui là va changer de coach, donc il va falloir aussi que la mayonnaise prenne. Tu as le Barça qui a recruté là Anthony Gordon, mais je les vois toujours pas recruter de défenseurs au poste où ils sont. On verra d'ici le mercato d'été. Mais est-ce que Hansi Flick va réussir à changer sa philosophie, à être un peu moins dans la prise de risque et pouvoir être un rival sérieux en Ligue des Champions? Il y a le Bayern, t'as affronté une équipe, moi cette année, qui a été énorme, tu les as regardé les yeux dans les yeux, tu t'affrontes la meilleure équipe d'Europe pour moi, t'as réussi à les taper, tu leur as donné 5-4 à l'aller, tu vas faire un match exceptionnel à l'Allianz au retour. Cette équipe, elle a de telles certitudes, je n'arrive pas à envisager ce qui pourrait l'arrêter, honnêtement. On peut parler aussi des clubs de première ligue, tu as City, tu as Arsenal, etc. Mais je pense que la différence aussi, elle se fait. Et ça, c'est peut-être pas un point positif, j'ai envie de dire. Moi, j'aurais envie que ça change, mais t'as une compétitivité en première ligue qui fait que les équipes qui sont concernées par la première ligue, elles auront toujours plus de difficultés, je pense, en Ligue des Champions face au PSG. Le PSG l'a prouvé, ils ont tarté tous les Anglais. Mais sauf que la PL n'aménage pas le calendrier comme le fait la Ligue 1, et je pense que le PSG, il n'y a aucune raison que ça change l'année prochaine. Ils auront les aménagements qu'il faut aussi. Donc voilà, je dis qu'il va falloir être très 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 fort pour sortir le PSG la saison prochaine et pour les empêcher d'accéder au triplé.
Le PSG est d'ores et déjà favori à sa propre succession pour le three-peat en Ligue des Champions. C'est l'avis tranché de Jimmy Bond. On en parle dans Génération After avec Kevin et Elton. Qu'est-ce que cela vous inspire, messieurs?
Déjà, c'est un peu le thème de la soirée, puisqu'on en a.
Ah, je le voyais venir, ce salopard.
Mais d'être très, très, très fort pour battre le PSG, ça, c'est pas une lapalissade, c'est sûr. Mais aujourd'hui, oui, moi, j'ai une question pour Jimmy, pour te dire la vérité, qui est quand même un supporter affirmé du Paris Saint-Germain.
Référence.
Je pense qu'on est assez proche, je voyais que tu croyais pas forcément au début de saison, et ça n'avait pas l'air d'être quelque chose qui était fin, c'est-à-dire qui était c'est pas du faux semblant, simulé. Mais aujourd'hui, est-ce que ça t'a, parce que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, ils ont dit, on a eu la Ligue des Champions, ça y est quoi, il peut rien nous arriver. Est-ce que cette deuxième, ça vous donne pas vraiment envie d'aller chercher la troisième aussi? Et c'est un peu ton avis, parce que vous dites, ça m'a aussi redonné presque l'envie là de rien lâcher.
Mais c'est vrai, tu as raison. Il y a un truc comme ça. Je pense qu'effectivement
effectivement, maintenant tu passes dans une autre dimension, oui. Et Simon a parlé dans l'introduction, tu veux marquer l'histoire en fait. Exactement. Tu te dis que tu as toutes les clés en main pour rentrer dans un quota des clubs.
De Ligue des Champions, c'est
oui,
rare.
Mais là c'est encore un autre club. T'as 4 clubs qui l'ont fait. Ouais, bah, tu veux faire partie de ces 4-là.
3, c'est monstrueux. Et je suis complètement d'accord avec ça. Bon, moi j'ai cru en Luis Enrique dès le départ, hein, même si je ne savais pas qu'ils allaient gagner de Ligue des Champions, ça je dois bien l'avouer. Mais aujourd'hui, ils ont tout. Ils ont les jeunes. Et en plus, tu sais, souvent on dit, ah, Vitinha au Real, ou jouer en Neves au Real.
Personne ne veut partir, en fait. T'as vu la fête après la victoire?
Ouais, j'ai vraiment pas l'impression que. J'ai pas l'impression que les mecs, ils veuillent partir. Et je comprendrais même pas que Barcola n'essaye pas d'aller gagner une troisième Ligue des Champions.
C'est même plus l'oseille, parce qu'en fait, l'oseille, tu l'as au PSG, mais c'est juste qu'à un moment donné, t'as envie d'être plus protagoniste, t'as envie d'être, voilà, titulaire. Là, tu passes avec Varane, Dembélé, Doué, c'est dur.
Il a le droit de marquer l'occasion à la dernière minute aussi. D'éviter à tout le monde.
Ouais, alors j'ai beaucoup vu et entendu ça. Moi, je sais pas, j'ai tendance à toujours être indulgent quand tu fais un sprint de 80 mètres.
Non, je n'ai pas dit qu'on peut pas être indulgent.
Il avait la place de rentrer dans l'histoire sur cette finale, il l'a pas fait, c'est vrai.
Voilà, c'est vrai. C'est un peu Colomboigny en finale de Coupe du Monde.
C'est vrai.
Bah, il fait un beau geste, le gardien fait un arrêt. Mais je veux dire. Ça se finit au pénalty, donc ouais. Ça peut être d'un côté ou de l'autre. Je vais pas te dire que c'est la loterie, mais ça ne l'est pas, mais voilà. Mais moi, j'étais persuadé que le PSG gagnerait les pénaltys, en fait. J'ai jamais cru qu'Arsenal gagnerait.
Il a pas perdu une séance de tir au but depuis qu'il est arrivé. C'est monstrueux, en fait. C'est monstrueux mental. Comment ils ont réussi à changer, à inverser cet aspect mental.
Je un peu blanc. Je me suis dit, voilà, il peut nous faire une balerdie.
Beraldo, c'était du 100%. Avec ce qu'il nous a montré au milieu de terrain, moi, dans les matchs de Ligue 1 qu'il a disputé en sentinelle, moi, je...
Non mais je suis d'accord avec toi sur la dimension qu'il a pris le milieu, etc. Mais avoir le cran d'aller tirer le tir au but. Le cinquième, tu as Nuno qui a raté avant toi et tout. Franchement, à tous les niveaux, ils sont impressionnants.
Je sais pas pourquoi.
Et deux trentenaires dans l'équipe. Deux trentenaires. Fabien Ruiz qui vient d'avoir 30 piges et Marquinhos qui a 32 ans. Que moi, je pense qu'il faut continuer, il faut garder la saison prochaine. Mais tu dois quand même améliorer ce poste-là.
Justement, Elton, Kevin, sur ce que dit Jimmy, est-ce que vous pensez que cette fois-ci il serait nécessaire juste de rafraîchir un petit peu cet effectif à la marge est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est indispensable?
Non mais par rapport à l'avis global de Jimmy, je suis d'accord, moi j'ai la règle des 3C qui donne plus de crédit au fait que le PSG pourrait être à Madrid en mai prochain. C'est 1, la compétitivité. On oublie de préciser que le PSG a joué 46 des 47 sur 47 matchs possibles depuis l'arrivée de Luis Enrique en Ligue des Champions. Ils ont loupé un match.
C'est
ta finale de 2024. Donc 46 matchs, c'est un volet qui est colossal. Ça veut dire que t'as voyagé, t'as joué contre quasiment toute l'élite du football européen, contre d'autres équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la créativité. Sur une deuxième saison où le PSG avait des contraintes, notamment par rapport à la notion de préparation physique, par rapport à la saison post-triplé qui s'est transformée en sextuplé, il y a eu cette créativité, notamment pour concerner tout un groupe et donner du galon à des joueurs que t'as permis de relancer. Je fais référence bien évidemment à Zaïre Emery, à Safonov qui est devenu numéro 1. Et le troisième point, ce qui va amener notamment ma réponse pour ta question, c'est la concurrence. Concurrence interne à travers des joueurs qui pourraient redistribuer les cartes dans l'effectif du PSG, ou concurrence externe à travers le recrutement. Et sur le recrutement, moi j'importerais Robot. Faut toujours plus de qualité plutôt que de la quantité, parce que tu t'appuies sur un groupe qui est restreint, mais cette qualité, il faut des joueurs qui puissent être en mesure de challenger les joueurs qui sont déjà présents, en sachant que, comme l'a dit Luis Enrique, c'est très difficile de challenger les joueurs qui sont présents. On peut faire une analogie avec les joueurs du Real entre 2016 et 2018. Tu t'aperçois que c'était très difficile pour les recrues extérieures d'arriver et de bouger les joueurs en place.
Et puis c'était à la marge. Les ajustements entre 2016 et 2018, c'est quasiment la même équipe qui la remporte trois fois de suite, le Real.
Donc c'est pour ça que pour moi, ça est très important, notamment sur la notion de concurrence externe à travers le recrutement, des joueurs qui sont en possibilité d'être polyvalents et d'avoir l'esprit ouvert pour digérer tous les préceptes footballistiques de Luis Enrique.
Kevin, ton avis là-dessus?
Oui, non, mais ce que je disais, il n'y a pas de souci. Moi, honnêtement, je pensais qu'il devait recruter l'été dernier. Bon, j'aurais dit deux joueurs comme ça, deux, trois joueurs.
Maintenant, mais c'est ça, moi, le premier, tu vois, le poste de latéral droit, toute la saison, je me suis dit, ils vont le traîner, ce truc-là, etc. Ouais, il te sort Zaïre Emery qui est
un joueur.
En fait, tous les paris, ils sont gagnants, tu peux rien dire, tu peux que t'incliner, en fait.
Ouais, c'est clair.
Tu dis bravo, merci, il n'y a rien à dire.
Il faudrait quoi, concrètement? Il faudrait un latéral gauche, éventuellement,
Si tu perds un droit, il faut remplacer ce que tu perds, en fait.
Il faut un central.
Il faut un central, je pense.
Je pense qu'il faut un central.
Il va falloir remplacer numériquement Ramos et ou Barcola.
Ramos, tu le remplaces par qui si jamais il s'en va? Parce que tu vas lui dire.
Moi, c'est Eli Kropijor.
Il nous faut un mec.
100% pareil.
Ouais, mais tu vas dire Ramos, donc tu vas le vendre à une équipe qui joue avec un vrai avant-centre.
Tu vas le vendre à Bournemouth, Ramos.
Comment tu vas convaincre un joueur
junior, il va venir, il va possiblement gagner une Ligue des Champions, donc déjà il y a pas.
D'accord, mais pour jouer 5 000, il va se contenter de.
Tu vois comment il fonctionne, tu vois comment il fonctionne en Ligue 1,
il va faire un petit palmarès en Ligue 1.
Non mais après attention, la perspective pour parler d'Eli Kroupi, on parle d'un joueur qui a été majeur dans le parcours de Bournemouth, qui a terminé 6e dans l'univers de la première ligue.
On parle du Paris Saint-Germain.
Oui, mais c'est le seul club qui peut concurrencer, je pense, la première ligue.
Déjà minimum. Mais attention, il y a le palmarès, les gars. Déjà, tu viens au PSG, tu vas prendre une Ligue 1. Ou 2 ou 3 ou 4. Ça, c'est clair, déjà. Après, t'as possiblement une Ligue des Champions, voire deux, si tu restes 2-3 ans.
En tout cas, t'es j'allais dire contender. T'es candidat à la victoire finale en Ligue des Champions.
D'accord, mais avec cette logique, Jimmy, Gonçalo Ramos, il pourrait se contenter de ce qu'il a à Paris, non, plutôt que d'aller être.
Mais Gonçalo Ramos,
je suis pas objectif avec Ramos.
Il l'a vécu, à un moment donné, quand tu le vis 3-4 ans, comme Barcola et lui l'ont fait, à un moment donné, bon, bah, t'es lassé, tu te dis, j'ai pas réussi à gagner ma place, tu vois le plafond de verre. Après, Kroupi, il arrive. Je pense pas qu'ils se disent si tant est qu'ils viennent. Ouais, je vais m'asseoir sur le banc, je vais les regarder, machin. Mais, il y a une concurrence, il y a machin. Il va pas. Tu vois, s'il est pas dit que l'année prochaine, il retouche pas à son 11, etc.
Et tu penses que Kroupi peut arriver à Paris en se disant, je vais mettre Dembélé ou Doué ou Kvara sur le banc?
Il doit avoir cette ambition-là.
Bien sûr, mais bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'il fait en première ligue, ce qu'il a déjà fait en France, c'est quand même très prometteur. Si tu veux atteindre l'équipe de France, quoi de mieux que le Paris Saint-Germain? Donc,
rappelle-toi que Dembélé cette saison, il l'a démarré quasiment en janvier-février, tu vois. On va sortir d'une Coupe du Monde, les organismes vont être ultra sollicités, on voit les fragilités que peut avoir un Dembélé. Je pense que t'auras du temps de jeu, t'auras des coups à jouer.
Et surtout, il y a un point qui est très important, s'il y a bien un entraîneur qui n'est pas dans le conformisme, qui n'est pas dans l'immobilisme par rapport à son 11 de départ, c'est Luis Enrique. Ouais. Luis Enrique, parce qu'on a mis en avant Gvaracheia, mais à un moment donné, il est passé par le banc. Il a été tensé, il a été recadré plutôt en interne. Donc, il faut gagner sa place. Il n'y a rien de définitif, il n'y a rien d'acquis dans ce PSG, et c'est ce qui lui permet, année après année, saison après saison, de s'améliorer et d'être une équipe encore plus compétitive, parce que je suis convaincu que le PSG sera encore plus compétitif sur la saison 2026-2027. Mais est-ce que ça va te garantir une Ligue des Champions? Là, c'est une autre question, parce que tu as des variables que tu peux pas maîtriser, parce que c'est le football.
D'accord, donc vous, scout PSG, c'est Eli Kroupi Junior. Hein. On parle plus de Julian Alvarez, on parle plus d'autres candidats comme ça.
Au-delà de l'identité.
On prend un jeune aux dents longues et avec.
Au-delà de l'identité du joueur, un joueur qui vient. Qui soit là pour apprendre, justement, pour apprendre un nouveau football, pour être polyvalent, parce que va y avoir des spots dans un effectif court et restreint.
Bon, voilà, petits ajustements, c'est le problème de riches. Hein,
plus qualité que quantité, c'est le maître mot.
Et là, on est évidemment d'accord, je crois que c'est ce que pensent évidemment Luis Campos et Luis Enrique. Petit détour par Roland Garros, est-ce qu'il y a plus de qualité ou de quantité, mon cher Eric?
Il y a de la qualité surtout chez Jakub Mensik, puisque il est en train de marcher sur Fonseca, j'ai pas peur des mots, hein. 6-4, 4-3 avec un break dans le deuxième set pour ce Tchèque qui est en train d'écraser la balle. L'état des balles après 9 jeux, ça doit être terrible, hein. Même mon chien n'en voudrait pas. Ça tombe bien, j'en ai pas, mais quand même, non, il est impressionnant de puissance. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir cette cadence, c'est la grande question. Mais pour l'instant, Fonseca il trouve pas de solution. Il trouve pas de solution. Voilà, il est dominé. 6-4, 5-3 désormais.
Bon, eh ben voilà, peut-être une sensation, hein, ce soir en Night Session à Roland Garros, où le jeune João Fonseca était annoncé comme favori. Sa cote devrait encore augmenter, hein, s'il perd la deuxième manche. Affaire à suivre avec toi tout à l'heure. Eric, nous on va essayer de maintenir la cadence durant le dernier quart d'heure de Génération After. On va parler mercato, les gars, c'est aussi ça qui fait qu'on aime les intersaisons. Mercato avec une info Ligue 1, elle est confirmée, on en parle dans un instant avec Elton, avec Jimmy, avec Kevin et vous. Évidemment, vous ne bougez pas.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
La dernière ligne droite de Génération After en ce mardi 2 juin, accompagné toujours par Kevin Diaz, Elton Mokolo, Jimmy Brown, avant de passer la main à Nicolas Jamin qui prendra les platines du studio RMC pour l'After de 22h à minuit. À plusieurs invités, Damien Périnel, un ancien ami de la maison qui vient de quitter ses fonctions d'adjoint du côté de l'AS Monaco, et Gilles Vestière, ancien arbitre international qui sort un ouvrage dans lequel il revient sur sa riche et passionnante carrière, beaucoup de souvenirs à évoquer, beaucoup de questions à lui poser pour Florent Gautreau, Daniel Riolo et Nicolas Jamin. L'after donc 22h minuit. Nous, avant ça, vous savez que c'est ce qui rend, je le disais avant la coupure, les intersaisons excitantes. Le mercato, évidemment, on adore ça. Les premières infos qui commencent à tomber, on sait que en année de Coupe du Monde, il y a certains dossiers qui se règlent plus rapidement que d'ordinaire, même si le premier qu'on va évoquer ne concerne pas un joueur sélectionné pour le mondial. Mais tout de même, les gars, un des plus grands attaquants de l'histoire du football français.
Yes, he's a Giroud.
Légendaire Olivier Giroud, légendaire supporter de l'équipe de France, immortalisé par ce petit jingle. Olivier Giroud, les gars, Olivier Létang, le président du LOSC, le révélait hier dans l'after. Les discussions voilà, sont entamées et se passent bien entre le LOSC et l'attaquant français qui fêtera ses 40 ans en septembre prochain. Olivier Giroud qui devrait donc prolonger son séjour d'une saison du côté de Lille. Giroud, meilleur buteur lillois cette saison, 11 buts, 7 en Ligue 1, 4 en Ligue Europa. Alors il avait démarré très très fort la saison, il y a eu un petit creux.
Après le match de Saint-Maur en Coupe de France, ça a été plus dur.
Et oui, c'est
forcément.
Il s'est heurté à la meilleure défense de France.
Vous lui avez marché dessus, évidemment.
C'était compliqué.
Sur le principe, j'ai dit devrait prolonger. On attend qu'un accord soit trouvé, officialisé. Est-ce que sur le principe, vous mettez à la place d'un supporter lillois, c'est une bonne idée? Bonne idée pour le LOSC.
Je suis pas persuadé. D'ailleurs, je trouve que c'est une solution de facilité par rapport à sa réalité contractuelle. Te dire, je vais donner un an de plus à Giroud en oubliant le contexte offensif du LOSC sur la saison de Ligue 1. Je rappelle, Lille, 8e attaque de Ligue 1 avec seulement 52 buts. Moi, j'aurais espéré qu'il y ait une marge de progression dans ce secteur offensif où tu as eu beaucoup de difficultés. Alors, bien évidemment, tu as eu des blessures.
Mais et c'est ça, c'est pour ça que je te rejoins pas parce que pour moi, ça va être Igaman titulaire. Et si tu prends Giroud remplaçant, il a joué beaucoup plus que prévu.
Mais attention, justement, Igaman, pour l'instant, il n'est pas arrivé. Moi, je m'attends à une saison 2026-2027 où il faut qu'il revienne progressivement. Moi, je voulais avoir un joueur qui soit à minima plus compétitif. Et moi, je me dis que le LOSC est qualifié en Ligue des Champions. T'es un club qui est bien géré. C'est le moment de mettre en valeur justement tout ce sur quoi t'as capitalisé pour aller chercher notamment une autre solution offensive qui incarne beaucoup plus à la fois et l'avenir et le présent dans un profil qui peut se rapprocher de celui d'Olivier Giroud.
Bon, moi je pense que là on est tranché là de Elton Mokolo.
Non, parce que t'as Fernandes Pardo qui est déjà là.
Oui, mais
moi je me dis,
on sait qu'il veut jouer neuf, mais est-ce que c'est là qu'il est le plus efficace?
Après, on va voir l'arrivée déjà de David Ancelotti rebat les cartes, pardon, parce qu'on ne sait pas comment il va jouer, est-ce qu'il va garder le même système que Genesio ou pas. Après, moi je pense que Giroud, pour encadrer le groupe, il en parlait très bien hier, Olivier Létang, sur l'importance d'avoir des joueurs d'expérience pour encadrer la jeunesse. Je pense qu'il a fait preuve d'une exemplarité, d'un professionnalisme tout au long de la saison. C'est pas anodin ce que dit Kevin quand même. Tu te disais pas sur le papier qu'un champion du monde, il allait se taper le 32e de Coupe de France à Saint-Maur. Voilà, il a jamais rechigné. Olivier Giroud, c'est un vrai pro.
Il y a ce qu'il apporte aussi.
Il y a un super état d'esprit. Il y a tout ce qu'il apporte en dehors du terrain. Alors, l'imaginer refaire la même saison que cette année, certainement pas, parce qu'il a beaucoup trop joué par rapport à son âge, par rapport à sa condition.
Il va y avoir la même problématique, du coup.
Non, parce que moi, je pense que tu peux prendre un profil jeune, tu peux prendre un autre joueur en gardant Giroud.
Je pense qu'ils vont pas prendre d'autres attaquants. Et que ça
si, parce que t'as une Ligue des Champions quand même, tu le disais. C'est pas parce que tu donnes un an de plus à Giroud.
Donc tu penses qu'il porte avec 4 attaquants sur la saison?
Je pense que oui, et je pense que Fernandes Pardo, il va peut-être retourner jouer couloir par moment, qu'ils vont peut-être jouer à deux pointes.
Ils vont peut-être le vendre 100 millions s'il fait une bonne Coupe du Monde.
C'est pas impossible. Enfin voilà, je veux dire, oui, il y a aussi ça. Le président Létang nous en parlait hier. C'était une offre exceptionnelle qui arrive pour un joueur. Fernandes Pardo, s'il sort une grosse Coupe du Monde, on n'est pas à l'abri que ça tombe aussi en première ligue, tu vois.
Tout peut arriver dans le football.
Oui.
Non, mais paraphrase, évidemment.
Non, mais moi, Olivier Giroud, oui, avec plaisir. Moi, je l'ai vu, hein, justement, à sa mort. C'est monstrueux. Il a sa sécurité uniquement pour lui, hein, faut le savoir, quasiment. Parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde veut un autographe, tout le monde veut une photo. C'est un gars qui est super cool, qui est super, qui est très avenant. C'est un peu l'image du club. Et moi, pour avoir parlé un petit peu avec notamment ceux qui gèrent la sécurité au LOSC, moi, il m'avait dit que depuis qu'il est au club, ils sont passés dans une autre dimension. Alors que ce n'est que Olivier Giroud en toute fin de carrière. Et il faut savoir que, par exemple, moi, ce qu'on m'avait expliqué, j'avais trouvé ça sympa à savoir, c'est que depuis qu'il est là, il y a beaucoup d'endroits où ils vont, où il y a des supporters qui les attendent à la sortie des hôtels. Notamment parce qu'il y a Olivier Giroud. Donc ça fait aussi partie quand même de l'image d'un club. Tu vas aller en Ligue des Champions.
C'était une énorme réussite. Dans tous les stades de France, il a été
ovationné. Ce qui est bien avec Jimmy et Kevin, c'est que je suis passé de deux émissions, c'est-à-dire Pascal le grand frère et Star à domicile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Quand on parle d'Olivier Giroud, moi, c'est ce qui va m'apporter la plus-value sur le terrain.
C'est là où ta génération elle doit progresser là-dessus. Le football, ce n'est pas que le rectangle vert, cher ami. Le football, c'est toute une image. Le football, c'est une marque. Aujourd'hui, la marque LOSC, elle a plus de valeur avec Olivier Giroud que sans Olivier Giroud. Surtout qu'il a été compétitif, qu'il a été performant et qu'il peut encore rendre des services dans une Ligue 1.
Il a eu des passages
à vide. Dans une Ligue 1 où les stars ne sont plus là parce qu'il n'y a plus d'oseille, et ben, un ancien champion du monde comme lui, comme ils avaient tenté le coup avec Umtiti, qui malheureusement a eu des soucis physiques, mais sinon, voilà, c'est des choses.
Moi, ma priorité, c'est des choses qui sont. C'est le LOSC qui progresse sur la saison 2026-2027.
On n'est pas dans l'éditorial, on est dans l'irrationnel, on est dans la passion.
Non, c'est du rationnel, et on a un président qui est justement censé être rationnel. Et moi, je vois un LOSC qui progresse. Est-ce qu'Olivier Giroud, c'est l'homme le plus à même à faire progresser le LOSC offensivement? Je n'en suis pas persuadé.
Il n'est pas là pour faire progresser, il est là pour accompagner.
Accompagner, moi, je ne veux pas de l'accompagnement, je veux de la qualité.
C'est du Walid Acharchour, on est là pour t'accompagner, Olivier.
Non, je veux de la qualité, moi.
Bon, en tout cas, Kevin et Jimmy ont l'air d'être dans le bus ou dans le train. Olivier Giroud.
Eux sont dans le storytelling, on a bien compris.
Et pas je sais pas, il était numéro 9 de l'équipe qui s'est qualifiée en Ligue des Champions. Ils ont fini 3ème et il est en train de nous expliquer que c'est une pipe.
Non, j'ai pas dit ça. C'est que tu m'approfites à la fin de contrat pour changer autre chose.
En tout cas, rien n'est encore officiel et on suivra ça évidemment rapidement. Eric Salio. Ça va mal pour le jeune de Fonseca, Roland Garros.
Ah, ça va très très mal. Ça va très très mal. 6-4, 6-3. Pour Ajaku Mentic, vraiment impressionnant. Il est chaud, comme on dit. Hein. Tout lui réussit. Il frappe très fort. Trois volets amortis absolument subtils. Je suis sous le charme du personnage. C'est du brutal. On l'adore. Mais il n'y a pas que du brutal. 2-7-0, Fonseca doit faire une troisième remontada depuis le début de ce Roland. Mais celle-là, je ne suis pas sûr qu'il puisse la faire. Hein.
Voilà, l'hommage de Eric Salio, le cinéphile. Le dénouement de cette rencontre entre le jeune Brésilien Fonseca et le Tchèque Mensik, c'est à suivre dans l'After, en compagnie de Nicolas Jamin, à qui je cède ma place dans le studio. Merci Kevin, merci Jimmy, merci Elton.
Salut tout le monde.
Merci à plaisir. Vous, les auditrices, les auditeurs.
Salut à tous.
Restez
merci
bien
à vous.
Sur RMC, le sport, l'info, le débat ne s'arrête jamais. Salut.
Génération After.